Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité, les 8h01 sur les ondes de Galère, et on est ravis de vous accueillir, et ce, jusqu'à 10h, Anthony au micro, accompagné évidemment de l'équipe matinale, à savoir Richard et Christian, que je vais saluer incessamment sous peu, mais juste avant ça, évidemment, je vous rappelle que nous sommes audibles sur le 88.4 de la bande FM, du www.radiogalergue.org, et pour ceux qui possèdent la RNT, la radio numérique terrestre, et le canal 8C. Pour présenter le menu, avant de donner la parole à mes chroniqueurs, un point évidemment sur le sommaire. On va faire 5-6 minutes une petite revue de presse. On vous l'avait annoncé précédemment, on a le plaisir de recevoir, on va parler du cinéma des mondes arabes avec Aflam qui est avec nous dans 7-8 minutes. Elles sont déjà présentes autour de la table. On va parler donc de ce festival qui démarre ce samedi 19 au 27 avril. C'est la 12e édition. Derrière, on enchaînera avec un dossier, j'allais dire d'actualité sociale, notamment avec la structure Coup à Coude, Michel Potoudjis, coordinateur, professeur de sciences économiques, et on recevra une géographe pour nous parler, notamment, et c'est un dossier central avec Manon Lalliot, notamment de la malbouffe, l'aide alimentaire, les revenus des agriculteurs, les inégalités des ressources alimentaires, un gros dossier, le gaspillage alimentaire aussi, un gros dossier, ça sera 8h45, 9h25, et on bouclera de 9h30 à 10h avec un dossier social, notamment on fera un dossier sur la démocratie citoyenne directe, on recevra des gilets jaunes, on recevra des membres du RIC, vous rappelez ce qui concernait les initiatives citoyennes, ça sera donc en fin d'émission. Je vous rappelle que malheureusement le standard n'est toujours pas disponible, faute de techniques, donc on espère le retrouver prochainement pour avoir une vraie interaction, mais malgré tout on reste évidemment dans l'interaction via le numéro de téléphone que vous connaissez, en tout cas je m'adresse à mon réseau 06 60 90 58 21, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis, convergents ou divergents, peu importe, la parole est libre sur les ondes de Radio Galère. Bonjour Christian, bonjour Richard.
Alors auditrice, auditeur, bonjour. Eh bien, comme à chaque semaine, je vais vous faire part des journées mondiales du jour. Alors nous avons la journée mondiale de la voix aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut que, allez, on y va, vous allez y aller, vous allez exprimer votre voix et ça va très bien se passer. Après, il y a une journée un petit peu plus triste, c'est la journée mondiale de l'esclavage des enfants. Bon, on sait que malheureusement, ça existe énormément et c'est une journée triste. Mais enfin, c'est une journée qui nous permet de réfléchir sur ce domaine qui est très, très, très important. Et ensuite, le troisième journée mondiale du jour, c'est la journée des numismatiques, avec des pièces anciennes ou pas. Donc des gens qui savent tout à fait vous dire si votre pièce est de valeur, ancienne, etc. Voilà, ce sont à peu près les trois journées du jour. Voilà, à vous de choisir celle qui vous paraîtra la meilleure aujourd'hui. Est-ce que c'est la monnaie? Peut-être.
Et pourquoi pas d'ailleurs centraliser les trois. En tout cas, merci Richard de nous faire chaque fois ces éclairages. Ça nous permet, parce que souvent on les oublie ces journées-là, et elles nous permettent parfois de prendre conscience ou de se rapprocher de tel ou tel sujet qu'on apprécie. Bonjour Christian.
Oui, bonjour aux éditeurs et aux auditrices. Bonjour à nos amis qui sont déjà dans notre petit studio.
Parlez un petit peu plus fort, mon cher Christian.
Voilà. Tu obliges à me forcer ma voix, voilà. Donc je répète.
C'est la journée mondiale de la voix.
Hein, oui, voilà,
ça va venir, ça va venir.
Et tout simplement, c'était une illustration pour la journée mondiale de la voix. Vous avez tout compris.
Exactement.
Voilà. Et en tout cas, dans ces trois journées, la journée pour signaler l'esclavage des enfants est très très importante parce que malheureusement, on est au 21e siècle. On va bientôt avancer encore un peu plus. Et on est toujours dans ce drame avec des enfants qui travaillent de façon comme des esclaves, pratiquement pour rien. Et ça, c'est vraiment pitoyable et misérable et à signaler chaque fois. Ça devrait être tous les jours qu'on devrait penser à ça.
Exactement.
On ne va pas avoir une journée dans l'année. Hein. C'est tous les jours qu'on devrait faire.
On est bien d'accord avec
ça. Fait, oui.
Et tu fais bien de l'évoquer. Rapidement, en revue de presse, on vous donne deux informations avant donc d'accueillir Aflam dans 3-4 minutes. Chaque jour, Plus de 7 décès de bébés. Les nouvelles ne sont pas bonnes, évidemment. Elles font froid dans le dos. La France est devenue la mauvaise élève de la mortalité infantile. Un enfant sur 250 meurt avant l'âge d'un an. Et 2700 nourrissons sont décédés en 2004. C'est une étude sérieuse de l'INSEE qui a été publiée la semaine dernière et qui confirme donc la dégradation de la prise en charge des nouveau-nés. Entre 2011 et 2024, le taux de mortalité avant un an était passé de 3,5 à 4,1 pour 1000 enfants, plaçant donc la France en queue de peloton des pays européens. Alors, ça ne veut pas forcément dire et dénigrer notre système de santé, quoique. On sait qu'on est en pleine régression là-dessus, bien qu'évidemment, on ait des hôpitaux publics qui fonctionnent plus ou moins, mais le problème, c'est qu'on a des gros soucis de pénurie d'effectifs et des conditions de travail pour les soignants. On l'a assez évoqué sur les ondes du 88.4 et on les a assez soutenus et on continuera à les soutenir. Mais en effet, ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. Rapidement, Christian, un mot là-dessus.
Oui, alors moi j'étais étonné de voir ces chiffres parce que je pensais que la France, avec son système de santé, était à la pointe de tout. On nous le rappelle sans cesse. Et finalement, on est classé à ce niveau-là, on est dans les cancres européens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des hôpitaux, au niveau de la santé qu'il faut signaler, c'est-à-dire qu'il y a un manque quelque part. C'est peut-être pas les moyens financiers, parce qu'on dit que la France alloue beaucoup d'argent pour la santé, pour le système social. Alors bon, peut-être c'est une pénurie au niveau des soignants, peut-être c'est un manque de, je sais pas, de coordination à ce niveau-là. Donc c'est à creuser. On va essayer de creuser cette problématique peut-être avec un intervenant, un médecin ou un spécialiste.
On aura l'occasion évidemment de faire un éclairage.
Mais c'est un constat qui est alarmant pour un pays très avancé comme la France. Je crois qu'il est 6e ou 7e puissance mondiale.
Oui, 6e. Ouais.
6e, alors avec des chiffres comme ça, pour un pays comme ça, c'est lamentable.
C'est inquiétant. Richard, un mot là-dessus, rapidement.
Non, il a tout dit, Christian. Je pense qu'il faut passer à autre chose parce que le problème est trop complexe.
Un point sur l'international, et ça va nous faire le lien notamment avec l'équipe d'Aflam qui est avec nous. Un point sur ce qui se passe évidemment à Gaza. Emmanuel Macron plaide auprès de Benjamin Netanyahou pour la réouverture, vous le savez, d'une solution politique à deux États. Il a réaffirmé vouloir déclencher une série de reconnaissances d'un État palestinien et d'Israël lors de la conférence des Nations Unies que la France coprésidera avec l'Arabie Saoudite au mois de juin. Donc c'est demain, ça se passera à New York. Et là aussi, beaucoup d'attentes. Évidemment qu'on ne peut, si on développe cette thématique-là, on pourrait en parler des heures, notamment sur ce qui se passe sur la bande de Gaza. On avait reçu, vous le savez, il y a 15 jours, ce médecin, notamment qui s'était rendu en Palestine, qui était venu sur les ondes de Radio Galère, médecin et infirmière d'ailleurs, qui était présente, qui avait assisté évidemment à tous ces drames et à cette innocence qui a été ciblée sur les enfants. Voilà, donc ce sont
et qui sont en grève de la faim, il faut le rappeler. Ils ont démarré de Marseille, ils sont en train de faire un tour de France.
Tout à fait,
ils sont en grève de la faim, ils demandent aussi à d'autres de se joindre à eux pour signaler ce qui se passe à Gaza, ce drame horrible. On a parlé des enfants et je crois qu'il y a des milliers d'enfants qui ont été tués.
Exactement. Et justement, on y vient avec Aflam, puisque Aflam aussi, il y a des éclairages sur Gaza et la transition est toute faite. J'allais dire la transition malheureuse est toute faite, mais il y a évidemment aussi beaucoup d'espoir, de qualité et de talent. Elles sont avec nous et on est ravis de les accueillir. 8h10 sur les ondes de Radio Galère. Mathilde Rouxel est avec nous, directrice artistique d'Aflam. D'ailleurs, on vous indiquera ce que ça veut dire Aflam. Nous, on trouve que c'est extrêmement évocateur. Et Louise Malherbe qui est avec nous, déléguée générale de l'Asso. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Et bonjour Louise.
Bonjour.
Voilà. Et je salue également, puisqu'elle est en off, Maureen Mougin qui est avec nous, chargée de com et relations presse. Boucher également stagiaire, qui nous a permis d'ailleurs, Maureen, de faire cette connexion, de développer toute la communication qui gravitait autour de ce joli festival qu'on a eu l'occasion de couvrir pendant plusieurs années. Elles sont déjà venues à l'époque dans le studio de Radio Galère pour parler de différentes éditions. C'est la 12e édition cette année, Mathilde. Et Louise, du monde arabe, des mondes arabes, ça démarre ce samedi.
Festival marseillais.
En plus, exactement, tu fais bien de le rajouter, mon cher Richard.
Quand même, hein.
19 avril, 27 avril, c'est 8 jours, avec évidemment des dates et notamment des lieux incontournables et des dossiers incontournables. Mesdames, on s'adresse à vous déjà dans un premier temps. Présentez-nous cette belle structure, on veut savoir un petit peu son ADN, son historique, son organisation, son fonctionnement. Voilà, je m'adresse à Mathilde et Louise, peu importe, je sais que vous connaissez bien la maison, voilà.
Ben merci, merci de nous recevoir déjà ce matin de
bonheur. Avec grand plaisir.
Alors l'association A Flamme, effectivement association marseillaise, qui a 25 ans d'âge maintenant.
Donc à Canebière d'ailleurs.
Canebière, ouais, ouais.
83, Canebière, c'est ça ?
Maintenant, on est au 83, on a été rue Saint-Saëns pendant un long moment, et avant, je n'étais pas là, donc je ne peux pas vous donner
l'actualité, c'est aujourd'hui,
l'actualité,
83,
Canebière.
On a bossé les dossiers, vous avez vu, on sait quasiment tout, non, c'est pas vrai, on attend le reste de votre part.
Non, et c'est une association qui est créée en 2000 et qui a pour but de promouvoir et de diffuser à Marseille et en région sud, au départ, les cinématographies arabes. Donc jusqu'en 2013, organisation de cycles thématiques, de festivals plutôt par nationalité, donc par pays. Et puis à partir de 2013, donc je pense que vous vous en rappelez, Marseille capitale européenne. Voilà.
On en a bénéficié nous aussi à la Friche, il faut le dire aussi. Ça
Absolument,
a été une spirale.
Ouais.
Alors certains avaient été un petit peu évincés, marginalisés, certaines structures disant Marseille capitale européenne de la culture, certains ont été oubliés, d'autres ont évidemment profité de cette spirale-là. Et il faut le dire, vous parlez tout à l'heure du cinéma arabe, enfin, et marseillais, une structure marseillaise, en effet, engagée aussi. Il y a tout un engagement citoyen, un engagement humain à travers votre structure. Et ça, c'est important de le rappeler.
Et donc oui, 2013, ça a permis à l'association de pouvoir organiser un festival donc annuel, donc compétitif, au MUCEM, mais pas que, parce qu'on en reparlera dans la programmation, mais on est aussi présent dans plusieurs salles du centre-ville, notamment au Gyptis, pas très loin d'ici.
Oui. On évoquera les différents lieux.
Ouais.
On a 25 minutes, on va y aller droit au but, mais avec grand plaisir.
Et donc, organisation d'un festival pardon, annuel non compétitif, donc le Festival à Flamme qui fête sa 12e édition cette année, mais aussi plusieurs autres projets et programmes, notamment une résidence d'écriture de scénarios de court-métrage qui s'appelle Workshop à Flamme, qui fête aussi sa 9e édition cette année. Et on a développé au fil des années une expertise entre guillemets de médiation culturelle. On organise des ateliers de création, des projections pour les scolaires,
pour les habitants,
pour les habitants, les habitantes. Absolument, on travaille beaucoup avec les associations marseillaises. Donc avec
et ça fonctionne, c'est important de le rappeler.
Ouais.
Il y a une vraie convergence des forces associatives. Avant, on disait oui, non, mais le cinéma, enfin, c'est plus accessible, ou alors c'est seulement une partie de la population qui est fan de cinéma. Mais non, en fait, le cinéma, il peut éclairer, il peut susciter des curiosités, il peut interloquer, il peut permettre le débat, d'accord, pas d'accord. Enfin, y a aussi le sentiment, quand on voit une toile, chacun a un peu son interprétation, c'est un peu aussi ça le cinéma, et c'est important que vous le fassiez. On m'avait demandé, mais c'est important de le rappeler, ça veut dire quoi, à flamme ?
À flamme, c'est, ça veut dire film au pluriel en arabe.
Voilà, vous voyez, c'était juste pour que vous puissiez le savoir, et ça veut tout dire. Je
alors
vous en
c'est
prie.
Là-dessus que vous pouvez taper sur Internet à Flamme pour trouver tout, parce que le festival est tellement riche et tellement
à
de
flamme.fr,
jours,
exactement.
Avec tellement de lieux, que vous allez écouter un petit peu, mais enfin, rapprochez-vous du site, et là, vous verrez, il y a tout d'indiqué. C'est beaucoup, c'est très important, parce que c'est vraiment un gros festival qui a dû prendre énormément de travail.
Ouais,
n'est-ce pas?
En effet.
Il faut demander à la directrice. Mais
j'arrive ici épuisé.
Oui, exactement. On peut l'évoquer. Juste un point sur le festival. C'est 9 jours de festival, 30 invités, 52 projections, si je ne dis pas de bêtises. Un week-end qui est dédié au patrimoine filmique avec le cycle Vive Archive. On y reviendra. Des soirées de concert, une balade décoloniale, une rencontre laboratoire, 2 masterclass. Une rencontre professionnelle, 20 pays représentés, et ce qui est très important parce que nos auditeurs et auditrices sont à l'écoute, les tarifs de 4 à 11 euros. Donc vous imaginez l'attractivité, l'accessibilité que propose à Flamme dès ce samedi du 19 au 27 avril. Et en plus, même pour les groupes, les scolaires et les étudiants, 2,50 euros. Et vous avez 11 salles partenaires qu'on aura l'occasion d'évoquer. C'est une vraie richesse, en tout cas, cette création cinématographique. Je m'adresse aussi à la directrice artistique, mais évidemment, n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont issues des archives, on va l'évoquer avec notamment Vive Archive. Nombreux pays arabes, on parle du Maroc, la Palestine, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, la Syrie, le Liban. La plupart de projections sont en présence des cinéastes, donc là aussi, il y a une interactivité. Comment on développe l'esprit artistique d'Aflam qui démarre ce samedi ?
Je pense que l'esprit artistique d'Aflam, il a été porté depuis toutes les actions de ces 25 dernières années, et qu'il est porté aussi et d'abord par les films qu'on reçoit, qui sont très riches. Hein, on reçoit beaucoup, beaucoup de films. Hein,
oui, il y a une sélection à faire d'ailleurs.
Il y a une sélection évidemment, mais c'est assez réjouissant de voir la vitalité en fait des cinémas arabes. Et nous, on a quelques petites cases de programmation, on n'a que 8 jours de festival. Et donc pour choisir ces films-là, on essaie de trouver des films qui déjà nous parlent à nous, nous racontent d'autres choses aussi que ce qu'on a l'habitude de voir sur les pays arabes, parce qu'on a beaucoup de clichés quand même, et le cinéma véhicule aussi beaucoup de clichés parfois.
Ça c'est quand même une force de chez vous, alors je n'ai pas vu les films, on a vu la programmation, j'ai lu les synopsis et autres, et en effet vous rentrez pas, alors c'est plutôt facile d'entrer dans le cliché, et c'est plutôt vendeur d'ailleurs, souvent porteur. Et là, pour le coup, il y a aussi des messages d'espoir, il y a aussi de l'amour, il y a aussi du partage. Alors évidemment, il y a aussi des conflits, mais cet esprit-là, il est bien représenté chez vous.
Oui, puis on aime bien les films de genre aussi. Donc oui. Quand on a des films de genre, on est content d'avoir des films de genre. Et cette année, pour une fois, parce que c'est vrai que c'est pas très fréquent, on a surtout des drames sociaux en général qui viennent du monde arabe. Là, on a vraiment beaucoup de diversité de formes, de récits, de propos, de réalisateurs aussi. Beaucoup de jeunesse, on a plein de premiers films. On a plein de documentaires qui racontent des histoires assez intimes aussi. Enfin voilà, on a une vraie diversité. Je pense qu'il y en a pour un peu tous les goûts. Et vraiment, on essaye d'accompagner aussi des publics vraiment différents, puisqu'on s'ouvre aux centres sociaux, aux scolaires aussi, avec des films qui sont peut-être un peu plus accessibles que les films qu'on propose le soir ou justement dans ce week-end Vives Archives là, qui est
ça peut être intergénérationnel. On peut cibler différents publics.
Bien sûr, bien sûr. Mais aussi, enfin voilà, je pense que l'intérêt d'un festival, c'est justement les rencontres avec les cinéastes et aussi l'accompagnement qu'on peut proposer avec les séances. Et donc voilà, je pense que c'est aussi dans ce sens-là que tout est bien pensé. C'est-à-dire qu'on veut que les réalisateurs puissent rencontrer plein de publics différents.
Est-ce qu'on peut dire qu'Aflam, c'est un festival engagé au niveau politiquement? Est-ce qu'on peut le dire aussi comme ça?
Je pense que faire un festival en étant une association culturelle, c'est déjà être engagé, parce que c'est pas forcément hyper facile, et qu'en plus on travaille avec plein de partenaires qui sont aussi très engagés à Marseille. Donc oui, j'espère qu'on peut dire qu'Aflam est engagé, mais comme vous l'êtes en fait.
Et alors, une fois après les films, il y a des débats, il y a des que va avoir le spectateur, un film, et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
C'est tout l'intérêt de la programmation. Enfin, on pense collectivement à Aflam, c'est de pouvoir introduire les films, les cinéastes, et de permettre un dialogue, un débat après les projections. Donc en général, quasiment pour toutes les projections, on a les cinéastes.
Et au niveau d'animation, il y a des petites buvettes qui sont prévues, il y a quelque chose, comment ça va se passer, vous savez?
Oui.
Certains endroits peut-être, et certains autres, c'est ça?
Oui, alors après ça dépend, si on est au Vidéodrome 2 ou à la Baleine, au cours Julien, bon bah de facto on a des buvettes un peu tout autour. Oui. Au Mucem c'est un peu plus complexe entre guillemets, mais nous en tout cas on sera là pour servir du café, il y aura des petites pauses repas, il me semble.
Oui, c'est ça, c'était voilà, pas pour faire
on va
un
pouvoir,
dîner, hein,
c'est non,
juste
non.
Parce que c'est bien d'avoir un accompagnement. Quand on voit un film,
ça
après
fait partie
débat,
du,
et puis,
du festif, oui, oui. C'est ce que tu veux
on
dire.
Va pas mourir de faim en allant au festival à Flamme, c'est ça.
Non.
Et on ça est rassuré, on est rassuré.
Les spectacles, c'est quand même un tout, c'est quand même une organisation. D'ailleurs, je pense que vous travaillez dur là-dessus. C'est un tout, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, comment on reçoit les gens?
Mais c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser aussi des soirées festives. On a deux concerts, enfin un DJ set les deux week-ends du festival, les deux samedis. Et c'est aussi une manière d'être ensemble et de pour le public.
Et où le sont ces deux soirées festives?
Alors la première soirée, elle est à Assabiha, cours Julien. Ça permet de suivre le public a juste à traverser la place.
Lieu incontournable qui se prête bien évidemment avec la fête. Hein,
oui, absolument. Julien. Et puis aussi voilà, ça permet de mixer un peu les publics. On n'a pas que les cinéphiles, on a aussi d'autres gens qui viennent. Et c'est une manière aussi de pouvoir rencontrer les cinéastes. Et la semaine suivante, elle est je suis pas très réveillée. Comment il s'appelle
À Toili.
À Toili.
C'est ça la connexion.
Qui est un nouveau restaurant café qui a ouvert il y a pas si longtemps, je crois, et qui pareil est très très lié avec les cultures arabes, donc ça faisait sens d'organiser
là,
ça là-bas.
Vous savez.
Rue Bernard Dubois.
Non. Peut-être.
Abelzins, en tout cas.
Abelzins.
Voilà. Tout le monde connaît Abelzins à Marseille.
Et c'est le collectif Marana, qui est donc un nouveau collectif queer Swana, qui organise cette soirée avec Aflam, voilà, pour le 26
alors,
avril.
Justement.
Donc, oui, la complexité de
Richard,
de retrouver tous ces lieux. Donc, tapez Aflam, Point fr. Regardez tout, détaillé, allez-y.
Et prendre les fouillez, places aussi.
Il y a de tout, il y a voilà. De la diversité.
Réservé.
Ah, justement, on y vient de rappeler aussi les différents lieux et vous pouvez nous présenter un petit peu les grandes dates. Alors, on ne peut pas rentrer dans le détail sur les synopsis et d'ailleurs, on vous invite, auditeurs et auditrices, à vous y rendre dès ce samedi et pendant. On parle de 9 jours, on avait dit tout à l'heure 8 jours. Alors, j'ai vu 9 jours de festival sur le dossier de presse, mais si vous dites 8 jours, je vais reprendre vos propos en tout cas sur les 8 soirées, c'est ça. 8
et demi,
en fait.
C'est ça.
8 et demi, c'est vrai que c'est un peu 8 et demi. En fait.
Bon, mais voilà, on est dans
on
le vrai.
On s'approche de la vérité.
On est dans le vrai, mais ça, c'était les grandes lignes. J'avais vu sur le festival, en bref, et il y avait ces éléments-là. Justement, voilà, vous évoquez un petit peu les différents lieux, les différentes tendances. Les pays, je les ai plus ou moins dit, mais il y a aussi de l'engagement. Donc, on veut savoir tout. On veut tout savoir, Mathilde et Louise.
Alors, on est sur plusieurs lieux, et ça, c'est un peu aussi l'ADN d'Aflam. L'idée, c'est quand même de pouvoir montrer du cinéma à tout le monde. Et donc, le premier week-end, on passe plutôt en centre-ville, entre le Polygone étoilé, le Vidéodrome 2, la Baleine, et les variétés. Donc voilà, ça nous permet aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus confidentiel. C'est des petites salles, c'est pour permettre des rencontres.
Des petites salles, mais qui sont très connues à Marseille. Hein.
Qui sont très connues et très fréquentées.
Et de qualité, de qualité.
Et c'est important de le rappeler, oui.
Oui, qui nous permettent aussi de faire des propositions à prix libre, pour le coup, ou gratuites.
Exactement.
Ce qui est quand même une chance dans un festival où, voilà, le cinéma, c'est aussi une industrie. Et
que ce soit à la portée de tout le monde aussi, c'est un but aussi pour vous, je pense.
C'est important. Et à partir du mercredi, on arrive au Mucem et on reste au Mucem jusqu'à la fin
c'est
de la semaine.
C'est l'apothéose au Mucem, c'est ça.
Oh, c'est une autre programmation. Je pense pas qu'il y ait. Enfin, c'est des rythmes, un festival.
C'est
le deuxième temps. Deuxième
c'est bien, mesure. En tout cas, que le Mucem vous ouvre ses portes. C'est super, ça, parce que Michel, en plus, il est tourné vers la Méditerranée, puisqu'il est au bord de la Méditerranée, donc c'est royal.
Oui, c'est vrai, mais c'est une coproduction avec le Mucem à Flam, en fait.
Voilà,
c'est,
donc c'est, alors, on ne le savait pas, il faut bien le dire. Alors, c'est une
coproduction. Depuis le début, d'ailleurs. Depuis le début, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Oui. Il y a vraiment cette connexion qui est faite, et le Mucem joue le jeu. Tout à l'heure, on parlait d'engagement et des pays arabes, forcément, la Méditerranée, enfin, Marseille, et je ne sais pas si c'est le fief, mais en tout cas, on peut peut-être le dire ainsi. Ça aussi, il y a quand même un engagement méditerranéen qui est bien prononcé, avec des cinéastes marseillais, avec des cinéastes aussi qui ne sont pas de Marseille. Enfin, il y a cet effet cosmopolite aussi qui gravite autour de ce festival à Flamme.
Oui, absolument. Après, je ne veux pas parler pour les fondateurs, fondatrices de l'association. J'étais jeune en 2000, mais...
Elle n'était pas née, même.
Nous aussi, on était jeunes.
Non, mais c'est vrai, ça fait sens à plein d'endroits pour l'histoire migratoire, cosmopolite de la ville et les liens qui existent entre Marseille et d'autres villes de la Méditerranée, et notamment des villes arabes de la Méditerranée.
D'ailleurs, ça pourrait se faire dans une autre ville que Marseille. Vous pouvez tourner autour de la Méditerranée, pourquoi pas, dans le futur.
C'est vrai. Je préfère être à Marseille qu'à Nice, moi, personnellement.
Non, je parle pas de la France. Je parle de tourner sur la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, c'est ça.
Ça a été fait. La Flamme a proposé et a programmé dans plusieurs lieux.
Tunis, par exemple.
Au Maroc, en Tunisie, absolument, ouais.
Alors, tous les films sont en français ou
j'ai rien contre Nice, attention.
Pardon.
Non, je dis, j'ai rien contre Nice.
Alors, est-ce que les films sont tous français ou on parle français ou en VO certains?
C'est sous-titré, je suppose.
Ils sont sous-titrés. Oui, voilà. Ils sont tous en arabe, mais après, il y a plein d'arabes différents. C'est ça qui est. Ouais. C'est pour ça qu'il faut venir tout le festival pour entendre aussi la musicalité de la langue.
Donc, les arabophones vont trouver leur plaisir, et ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, il y a un sous-titrage pour aussi qu'ils puissent comprendre, c'est ça.
Et ça, c'est important. 8h25 sur les ondes de Radio Galère. Il nous reste un petit quart d'heure et on en profite pour parler d'Aflam et de ce festival qui démarre, je le rappelle, samedi 19 avril et ce jusqu'au 27 avril. Alors, on a développé un petit peu l'ADN et les sensibilités de ce festival. Il y aura donc les cahiers d'Aflam. Alors, un mot sur j'avais vu la thématique, le cycle Vive Archive. Donnez-nous quelques infos là-dessus. Puis ensuite, on aura l'occasion de parler de l'invitée d'honneur, Fatma Ben Saïdan. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est elle qui va, entre guillemets, incarner, je sais pas si on peut dire, parce qu'elle, elle est figure incontournable dans son pays et autres. Mais en tout cas, vous l'avez choisie comme invitée d'honneur. Mais juste avant ça,
il faudra nous dire pourquoi, d'ailleurs.
Exactement. Et parlons du cycle Vive Archive. Louise et Mathilde, je vous en prie. Comme vous le souhaitez.
Le cycle Vive Archive, c'est un cycle qui est né il y a 4 ans à Flamme. Avec la volonté de pouvoir aussi montrer des d'autres notre volonté à Flamme, c'est de montrer un peu d'autres images que celles qui, a priori, circulent facilement en France. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cinéma arabe qui circule bien en France aussi. Vis Archives, c'était la même chose, mais pour des cinémas du passé, en fait. Parce qu'on n'avait pas forcément... On n'a pas forcément l'habitude de voir des images... Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'images qui resurgissent aussi des années 70.
C'est-à-dire du monde arabe dans le passé, c'est ça
Des pays arabes, des gens qui ont fait des films après les indépendances,
voilà,
par exemple.
Voilà, parce que, par exemple, l'Égypte était un grand producteur de films, donc peut-être il y aura des films égyptiens qui sont assez connus et qui ont inondé le monde arabe à un moment donné.
Alors, le principe de Vues Archives, c'est d'aller dans le pas vraiment très connu, justement, plutôt. et donc, du coup, de montrer des images qu'a priori, personne n'a vraiment vu avant à Marseille.
Des films inédits, alors, en quelque sorte. Ou très peu connus, comme vous l'avez dit, voilà, c'est ça.
Oui, voilà, inédits au 21e siècle, disons, mais qui ont beaucoup circulé au 20e. Voilà. Et après, l'idée de ça, c'est de pouvoir aussi accueillir des cinéastes contemporains. Donc, on a une rétrospective quand même dans cette section Vives Archives. On accueille un cinéaste palestinien pour 3 jours qui nous montrera plusieurs de ses films, qui donnera une masterclass à la Baleine aussi. Ce cinéaste, c'est Kamel Al-Jafari, c'est quand même quelqu'un de très connu, qui vient souvent à Marseille. Enfin, il a été beaucoup au FID. Il a gagné le Grand Prix encore cette année pour son film. Et donc, voilà, on espère que...
Alors, sur ce festival, c'est un travail colossal, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre structure, votre équipe, un petit peu rapidement, parce que je pense que vous n'êtes pas que deux à faire ça.
Non, en effet, on n'est pas que deux.
Oui, c'est important. Voilà.
Alors, expliquez-nous un petit peu votre fonctionnement, parce que c'est un travail colossal et c'est bien de voir un petit peu l'ensemble des équipes et tout, quoi.
Bah, pour la programmation du festival, on a un appel à films qui est lancé en septembre, je crois, qu'on clôture en novembre, donc là qu'on lance un peu sur nos réseaux.
Est-ce que ça touche l'autre côté de la Méditerranée?
Oui, absolument.
C'est important de le dire, parce qu'il y a des pays aussi que le cinéma est un peu serré. Je ne le citerai pas, mais il y a des endroits où le film n'est pas très répandu, où il est un peu censuré.
Il est moins démocratique et moins développé dans certains pays. Oui,
mais quand même, ça passe, vous arrivez à contacter les réalisateurs, les cinéastes de l'autre côté de la Méditerranée.
Puis maintenant, le Festival à Flamme est quand même identifié par les cinéastes.
Oui, il est connu.
Il est devenu un argument d'autorité. Non, mais c'est important de le rappeler. Il a une renommée. Et au-delà de Marseille, il a une renommée
qui a passé la Méditerranée.
Exactement.
Donc on vous sollicite. Voilà, tout simplement. Voilà.
Donc il y a évidemment l'appel à film et les recherches aussi de Mathilde. Dans ce qu'on appelle une veille à film, c'est-à-dire que pas tous les films, presque qui ont été produits ces 2 dernières années, Mathilde, avec un comité de sélection.
Elle regarde. Ouais. Elle a des petits yeux, donc elle doit passer toutes ses nuits à regarder les films.
Et après, ce comité de sélection se réunit plusieurs fois entre novembre et mi-janvier pour parler des films, des longs-métrages, des courts-métrages, et identifier la ligne curatoriale qui va se dessiner.
Quels sont vos critères de sélection? Est-ce que vous en avez, d'ailleurs?
Il ne faut pas de critères, je pense.
C'est le coup de cœur, c'est ça? Peut-être aussi, je ne sais pas.
C'est ce que nous raconte le film, c'est d'où il vient, c'est pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il raconterait ici aussi, parce que l'idée, c'est de montrer des films qui puissent résonner avec nos publics. Donc c'est aussi pensé pour Marseille.
Je présume que vous avez un avis très professionnel, quand même, parce que c'est quand même votre métier de pouvoir apprécier la valeur aussi de construction de films, etc. Il n'y a pas que le coup de cœur, il y a aussi... la validité. Alors, vous m'avez pas répondu. Combien êtes-vous dans votre équipe?
Il faut répondre, attention. On est sur Radio Galère ici. Hein.
À peu près.
On est, en comptant le comité de sélection, on doit être une dizaine.
C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Ça fait du monde et des heures passées à visionner.
Parce qu'on le sait, c'est un travail qui est colossal, comme tu l'as dit. On va parler de l'invité d'honneur, Fatma Ben Saïdan. Allez. Un mot là-dessus, actrice, réalisatrice tunisienne qui est très connue pour sa carrière au cinéma et à la télévision, notamment en Tunisie. Mais on veut tout savoir.
Et son engagement aussi, attention.
Pourquoi vous l'avez ciblée en tant qu'invitée d'honneur de la 12e édition du Festival de la Flamme?
Est-ce que c'est parce que c'est une femme déjà?
Non, c'est pas parce que c'est une femme.
C'est pour vous piquer un peu.
Non, c'est parce que c'est quelqu'un qui est important, parce que c'est une figure qui est dans le cinéma tunisien depuis plus de 30 ans et qui accompagne à la fois des cinéastes qui sont aujourd'hui considérés comme des grands cinéastes tunisiens, parce qu'ils ont fait quand même une belle carrière, et souvent avec Fatma. mais aussi elle accompagne les jeunes, elle n'hésite pas.
Elle est très engagée, c'est une femme.
Elle est très engagée, elle est très sympa, et c'est vraiment une figure
emblématique.
Une actrice importante qui s'est beaucoup engagée aussi en Tunisie pour la culture de manière générale, pour les enfants. C'est une grande actrice de théâtre, et il nous semblait important aussi un peu, et bon, en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent Fatma Ben Saïdan parmi les gens qui connaissent un peu le cinéma tunisien, donc c'était une manière aussi de pouvoir permettre à ces gens-là de la rencontrer, tout simplement, et c'était important pour nous aussi de pouvoir mettre en avant une actrice pour une fois, c'est aussi eux qui font le cinéma.
Et d'ailleurs, elle sera, puisqu'on parlait de la masterclass quand on a donné les grandes lignes du festival, le samedi 26, donc la veille de la clôture, à l'auditorium du MUCEM à 16h, modéré, je cite, par Samir Ardioum. Aflam souhaite cette année mettre à l'honneur cette grande figure du cinéma arabe. Donc évidemment, on comprend. Alors, quand je parle de Fatma Ben Saïdan, c'est pas que pour cette soirée-là. Évidemment, elle sera. Il faut que son âme résonne en tout cas sur toute la semaine. Un mot sur ce qu'elle incarne aussi, puisqu'on parle aussi de la femme, puisqu'elle s'est imposée comme un modèle pour les jeunes générations. On rappelle qu'elle est née en 1952, donc voilà, sans lui faire offense, elle a déjà l'expérience de la vie. Malgré tout, beaucoup se réfèrent à elle. Et puis elle a eu des rôles très... fort, des personnages forts, déterminés, avec un vrai engagement artistique et social. Ça aussi, ça vous parle?
Oui, alors en fait, la réalité, c'est que Fatma Ben Saïdan, c'est un peu quelqu'un qui est dans le cinéma tunisien partout, mais plutôt à l'arrière-plan en général, avec des seconds rôles très forts, effectivement, mais assez muets. Enfin, elle n'est pas forcément sur le devant de l'écran, et c'est aussi ça qui nous intéressait. Donc les films qu'on montre, nous, c'est des films où elle tient le quasi-premier rôle ou le premier rôle, mais c'est pas représentatif de sa filmographie. Mais ça, voilà, c'est pour ça qu'on a cette masterclass aussi, pour pouvoir discuter de qu'est-ce que ça veut dire de participer à un film et d'être à la fois une figure très reconnaissable et en même temps pas forcément très bavarde dans les films.
Elle va participer au débat peut-être aussi.
Oui, bien sûr, elle accompagne tous les films dans lesquels elle va jouer.
Donc les spectateurs vont avoir la chance de la voir.
Et la rencontrer, on espère.
De la rencontrer, de partager. Mmh. Oui, oui. Ça, c'est... Ça a été spontané entre vous et elle, ou alors il a fallu...
Ah bah oui, enfin, c'est vraiment une figure importante, oui. Donc elle s'est un peu imposée dans nos discussions toute seule, quoi.
Voilà. Ben, c'est vrai que bon, les deux entités sont colossales, aussi bien vous qu'elle, donc c'était fait pour aller ensemble cette année.
Voilà. Alors, un mot aussi, il nous reste 6 à 7 minutes.
Ah, c'est trop court.
Justement, on y vient. Et n'hésitez pas, Louise et Mathilde,
à
rajouter. On a des invités qui nous attendent.
Oui, bien sûr.
Mais à rajouter des
mais
éléments.
C'est dommage.
Si on a occulté tel ou tel thème, n'hésitez pas. Alors, cette question, on l'a fait à chaque fois et je sais qu'elle est toujours difficile, en tout cas, à répondre. Est-ce qu'on peut vous demander votre coup de cœur? Alors, ou vos coups de cœur, ou en tout cas...
C'est délicat, ça.
Ouais, c'est toujours délicat, mais après, on ne va pas... Voilà, ce n'est pas pour donner priorité à l'un ou à l'autre, mais est-ce qu'il y a une thématique, une cible que vous souhaitez mettre davantage en avant, ou en tout cas pour avoir vos ressentis, parce que vous comptez parmi le public aussi. Voilà.
Alors ouais, c'est difficile, les coups de cœur. Non, j'en ai deux, je pense, si je dois en choisir deux. J'ai le film d'ouverture, donc alors il y a quelque chose... On a une ouverture officielle au MUCEM le 23 avril, même si on commence le festival le 19. Donc c'est un peu... Ça peut être un peu confusant pour les auditeuristes, mais qui est un premier long-métrage égyptien, donc le 23 avril au MUCEM de Khaled Mansour, qui s'appelle « Seeking Heaven for Mr. Rambo ». Qu'on pourrait traduire pour « Cherche refuge pour Monsieur Rambo », en tout cas, qui suit un jeune Égyptien et son chien dans le Caire contemporain et qui va venir illustrer un peu de manière métaphorique ce que la jeunesse révolutionnaire de 2011 en Égypte subit. Qui est un film, on l'a qualifié de thriller un peu social, mais en tout cas c'est un film que je trouve bien écrit et qui a quelque chose de très grand public, donc c'est pour ça que le comité de la sélection l'a choisi pour cette soirée d'ouverture au MUCEM. Et un autre documentaire qu'on programme, je crois, à 16h.
C'est pas un documentaire, le film.
Effectivement, c'est donc le jeudi 24 avril à 14h au MUCEM. C'est Les Miennes de Samira El Mouzribati, qui est donc une réalisatrice belgo-marocaine et qui
en partant de la figure de sa mère et de ses sœurs, va vraiment dérouler. J'ai pas envie de trop en dire, mais c'est un documentaire qui est très très sensible et très très fort.
Donc ça mélange film et documentaire.
Voilà. Fiction et documentaire.
Fiction
et
libre. Voilà,
long métrage, court métrage, voilà. Fiction,
ça,
documentaire.
C'est bien de le dire aussi.
Expérimental.
Est-ce que ça stimule un peu d'autres pays arabes qui ne travaillent pas encore, enfin qui ne viennent pas encore au festival? Et est-ce que ça stimule d'autres pays, d'autres pour pouvoir participer? Parce que bien entendu, ils sont au courant que ça se fait. C'est bien quoi.
Je suis pas sûr que ce soit Aflam qui leur donne envie de faire des films. Je pense que c'est plutôt l'état des choses. Et il y a des films partout, en fait. Hein. On a beaucoup de clichés. On pense qu'on peut rien, on peut pas s'exprimer nulle part dans les pays arabes.
Oui, c'est ça.
Etc.
On a beaucoup de clichés dans
faux,
ce
hein.
sens. C'est faux. Ah, voilà, oui, c'est bien de casser ce
vraiment
partout, préjugé.
Et... C'est important de le rappeler. Vous faites voilà. bien de le rappeler.
Et maintenant,
sur les
on peut filmer, faire des films avec son téléphone. Donc,
tout le monde peut faire un film
pratiquement. Maintenant. Oui, et surtout, tout le monde a des choses à raconter. Et je pense qu'il faut écouter tout le monde aussi.
Est-ce qu'il y a une prépondérance, justement, d'un pays par rapport aux autres au niveau de la filmogo
Ça dépend des années, un peu, hein. Évidemment. Y a
là, par exemple, cette année, alors
Cette année, l'Égypte est revenue un peu en force.
C'est l'Égypte qui est au premier rang.
Ouais, ouais. Mais bon, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu de film égyptien, donc on était aussi super contents d'en avoir plein.
Dans le passé, ça a été un gros producteur de films. Je pense qu'il y a toujours une grosse production
toujours.
Qui se fait. Voilà.
Mmh. Beaucoup de films de divertissement.
Voilà, des comédies qui étaient bien appréciées du public, d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus forts ou plus en avance sur les films que d'autres? Oui. Non.
Je pense qu'on peut pas vraiment juger comme ça, parce qu'en fait, chaque filmographie, même chaque réalisateur a sa façon de voir les choses, mais il y a des industries qui sont plus solides. Le Maroc, par exemple, ils mettent beaucoup d'argent.
Oui, je parlais surtout, vous avez, m'avez rectifié, vous avez bien fait. Je parlais surtout des industries cinématographiques, donc, qui sont plus ou moins fortes.
Bah, le Maroc a beaucoup d'argent à mettre dans des films de fiction qui sont peut-être un peu plus classiques dans la forme, mais aussi très bien faits et très bien faits et assez intéressants, parfois.
Donc, le gouvernement marocain appuie ces cinéastes, etc. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà, oui, depuis quelques années.
Ils mettent de l'argent, ce que ne font pas tous les pays, certainement.
Bah, parce que ça coûte très cher, le cinéma.
Parce que ça coûte cher, d'autres priorités, sans doute. Quel pays vous aimeriez attirer qui, pour le moment, n'avait pas réussi à avoir de cinéastes ou de films? Est-ce qu'il en existe ou vous avez vraiment toute la panoplie du monde arabe qui vient à vous?
Je pense qu'on attend avec impatience des films qui nous arrivent du Soudan, du Yémen, de zones qui sont tellement sinistrées que pour l'instant c'est très difficile de faire des films, mais où il y a forcément des choses à raconter. Ça, c'est sûr que des films yéménites, on en a un tous les 10 ans. Et...
Voilà, donc ça, c'est un appel sur Radio Galère de peut-être si un cinéaste yéménite vous entend. Vous attendez sa production, c'est ça. Les portes sont ouvertes.
Absolument.
Alors, on va répéter Aflam, donc ça c'est très important.
Il ne reste plus que quelques minutes, alors on rappelle.
L'essentiel c'est que vous puissiez retenir ça, Aflam, et que vous puissiez voir sur internet tout ce qui va se dérouler. Alors, on en a parlé, mais enfin, je n'ai pas vraiment.
Il y a toute la programmation, il faut choisir, il faut réserver. Alors, on peut réserver en ligne, c'est ça?
Absolument. Donc, on a en plus mis un petit coup de neuf sur notre site internet pour qu'il soit un peu plus clair, donc là j'espère que les auditeurs vont s'y retrouver, mais en tout cas dans le programme 2025, vous avez accès à toutes les informations. En ce qui concerne les premiers jours, donc Vidéodrome 2, Polygone étoilé, il n'est pas possible de réserver, donc il faut venir un peu en avance. Prix libre ou entrée libre au Polygone étoilé, et toutes les autres salles qui sont des exploitants un peu plus classiques, donc la Baleine, les Variétés, le Gyptis, le Mucem, évidemment c'est
là,
possible, et l'Alhambra, pardon.
Là il faut réserver alors.
On peut réserver, oui, absolument.
Ou
sur
se
notre
présenter
site.
Ou réserver aussi.
Absolument.
Est-ce qu'il y a un pass peut-être pour... Est-ce que vous avez fait ça? Je ne sais pas.
Non. Malheureusement,
c'est peut-être
non.
À prévoir aussi. C'est intéressant d'avoir un pass pour quelqu'un.
Ouais,
ça
ouais.
peut diminuer le prix. Mais bon, la directrice va avoir ça pour la prochaine fois.
Malheureusement, c'est surtout on est dans plein de salles différentes, donc c'est vrai que c'est difficile de faire quelque chose de cohérent.
J'allais dire, c'est très difficile.
Ça nous permet d'avoir
besoin
des...
Parce que chaque entité a ses propres gestions de... C'est pour ça que c'est difficile. Mais le pass, vous l'avez sur Internet, puis vous choisissez, vous prenez tout, puis c'est bon.
Vous faites votre propre pass. Ça va de combien à combien? Alors, vous avez dit, il y a des conditions tarifaires en fonction des personnes.
Ça va de 2,50€, ça c'est donc un tarif pour les groupes, les scolaires, les centres sociaux, donc au Mucem, jusqu'à, je crois, 11€. Et je pense que le plus onéreux, ça doit être les variétés, ouais, en tout cas.
Les variétés.
Ouais.
Mais on a plus onéreux parmi les prix bas.
Oui, oui.
Parmi les prix bas.
On met en place aussi pour les moins de 26 ans, bénéficiaires des minima sociaux, dans la limite d'un certain nombre de places par séance, en tout cas des gratuités. Donc si des étudiants et étudiantes veulent assister à des projections, ils peuvent venir un peu en avance, venir voir l'équipe d'Aflam, et normalement on peut...
Mais est-ce que pour ces organisations, vous faites appel à des bénévoles ?
Absolument, on a chaque
année... Monsieur Richard, il veut participer en tant que bénévole.
Moi, à partir du moment où il va y avoir le café, les croissants, etc.
Voilà, c'est ce qui l'attire dans le bénévolat.
Mais alors, on peut faire un appel aux bénévoles peut-être ?
Alors l'appel aux bénévoles, il a eu lieu. Il a eu lieu et on a chaque année une vingtaine de bénévoles qui sont indispensables et qu'on remercie vraiment chaleureusement chaque année parce qu'ils nous permettent de mettre en place et de faire tourner la boutique, l'accueil des invités, s'assurer que tout le monde a bien mangé, faire entrer le public dans les salles. Enfin voilà, tout ce qui fait un festival.
Vous en avez encore besoin pour cette année ? L'équipe est faite.
C'est fini, c'est que tout est clos là, ça y est.
Là, on est sur la dernière ligne droite, donc normalement...
Oui, les gens n'ont pas le temps de venir, j'ai bien compris. Oui. Bon, on remercie quand même tous les bénévoles. Hein. Il faut le dire, parce que dans toutes les associations...
Parce qu'ils ne sont pas payés, c'est ce que tu veux dire.
Ouais. Mais enfin, je pense que le tissu du bénévolat est très important.
C'est un plaisir de travailler pour un festival comme ça.
Est très important et on ne le dit jamais assez. Hein. Bon... Grâce aux bénévoles, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent.
C'est vrai, il faut le souligner.
Et dans des domaines, des fois, quelquefois difficiles un peu.
Hein ? C'est vrai.
Voilà. Mmh. Bravo les bénévoles. Et on vous attend tous, le public.
Un petit mot sur la Palestine, juste avant. Est-ce qu'il y a un cinéaste palestinien qui sera là aussi avec une production ? On le rappelle parce que c'est dans plein d'actualité. Donc voilà.
Une rétrospective, comme je l'expliquais, de Kamel Al-Jafari qui sera là pour discuter, évidemment. De ce qui se passe en Palestine depuis 48, en fait.
Et sur Gaza aussi, certainement.
Et sur Gaza, on n'a pas de film sur Gaza, voilà, parce qu'évidemment, là, pour le moment, c'est compliqué.
Voilà, il a des échos et il pourra aussi en discuter avec tous ceux qui sont intéressés par cette actualité dramatique, bien sûr.
Mmh, bien sûr.
Ok, bon. Mais le dernier pour vous.
On rappelle quand même que le président français voudrait faire, donc enfin...
La reconnaissance, reconnaître la Palestine, l'État de Palestine.
Voilà, l'État.
Pas seulement, mais.
Pas seulement.
C'est un peu tard. Hein,
un peu tard, mais. Vaut mieux tard que jamais. Bah ouais. Comme on dit.
Ça dépend des conditions.
Vaut mieux tard que jamais, ça, évidemment. C'est une expression qui fonctionne. 8h43 sur les ondes de Radio Galère. Donc, on va devoir conclure avec vous. Merci d'avoir représenté le festival Aflam, le cinéma des mondes arabes, on le rappelle, qui aura lieu dès ce samedi du 19 au 27 avril. Vous avez toutes les infos, notamment sur le site aflam.fr avec le dossier de presse, la programmation, des films engagés, des films qui méritent en tout cas de la réflexion et qui méritent un intérêt, auditeurs, auditrices, de vous y rendre dès ce samedi, et pendant près de 8 jours. Merci. À vous d'avoir été avec nous, l'équipe d'Aflam, Mathilde Rouxel en tant que directrice artistique, Louise Malherbe en tant que déléguée générale de l'association. Je resalue Maureen Mougin, chargée de com et relations presse, qui est en off, et Bouchera en tant que stagiaire. Le dernier mot pour conclure, merci et à très bientôt.
Ben non, merci de nous avoir reçus, c'était un plaisir.
On vous accueille chaque année et même si vous avez d'autres choses entre-temps... Vous êtes les bienvenus sur Radio Galère. Hein.
Exactement, la parole est toujours libre sur les ondes de Radio Galère.
Et la porte est toujours ouverte.
Et la porte est toujours ouverte. Merci Mathilde.
Merci beaucoup.
Au plaisir de vous revoir. Pause musicale, Bryan Adams, Everything I Do It For You. La personne se reconnaîtra et juste après donc, le dossier avec
elle
Michel.
Elle se reconnaîtra si elle parle anglais. Hein.
Michel, exactement, tout à fait, tu as raison. Michel Potoudis pour nous parler de coude à coude. On va parler de gaspillage alimentaire. On va parler évidemment de tout ce qui est attrait à l'alimentaire et notamment sur la malbouffe, les revenus des agriculteurs, les inégalités de ressources alimentaires. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est juste après Bryan Adams sur les ondes du 88.4. Merci l'équipe d'Aflam.
Et à bientôt.
Et au plaisir de vous revoir. À bientôt, évidemment. Search your soul, and when you find me there, you search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission consacrée au dossier central sur les ondes du 88.4. On rappelle qu'on est également audible sur la bande FM par le biais du 88.4, mais également sur le www.radiogalère.org. Et pour ceux qui possèdent la RNT, la radio numérique terrestre, c'est le canal 8. C'est Anthony toujours au micro, Christian et Richard toujours évidemment avec moi pour boucler cette matinale. On a encore 1h10 de direct et on va en profiter. Et donc désormais, c'est la structure coude à coude qui est avec nous plusieurs fois par an et c'est toujours un plaisir. Michel Potoudis est avec nous, coordinateur de la structure, professeur jeune, professeur retraité de sciences économiques et sociales, accompagné de Manon Lalliot qui est géographe social. Voilà,
qui est jeune aussi, hein.
Christian, on t'entend mal.
Eh oui, mets-moi le micro, c'est comme ça tu m'entends.
Non, non, ton micro est ouvert. Ton micro
est ouvert. Je disais qu'elle est jeune aussi. Il n'y a pas que monsieur.
Oui, mais peu.
Que le professeur qui est jeune.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais qu'elle soit jeune ou pas, ça ne change pas le talent et l'approche, évidemment.
Ah, on va voir. On n'a pas entendu parler encore.
Mais on y vient justement. Donc, on va vous saluer dans un premier temps. Bonjour, Manon.
Bonjour, enchantée.
Voilà. Et bonjour Michel.
Bonjour. Toujours content d'être là.
Ben, toujours ravi de t'accueillir. Ce sont des vrais rendez-vous. Et il faut absolument ne pas oublier toute la belle programmation que réalise Coude à Coude tout au long de l'année. On peut faire un petit topo d'ailleurs sur la structure Coude à Coude, Michel, et notamment du rendez-vous précédent. Et puis donc on va annoncer celui du 29 avril.
Donc Coude à Coude est une association nationale qui agit pour un partage des savoirs utiles à l'action collective dans le sens de l'émancipation, dans le sens de la lutte contre les dominations. Donc on est sur plein de terrains, égalité hommes-femmes, lutte contre les discriminations, contre le racisme. On a des groupes locaux et le groupe local de Marseille, on en est assez fiers, et le premier à avoir existé et le plus actif en nombre d'initiatives. Donc une cinquantaine à une soixantaine d'initiatives.
Structure, on rappelle, ce collectif est tout jeune aussi. Hein.
Tout jeune, oui. Début 23 pour l'association, et le groupe de Marseille a commencé en septembre 22 par une présentation d'un livre, La valeur du service public, qui avait déjà été organisé à l'Alcazar, avec trois auteurs, historiens, politistes, sociologues. Et la question du service public est revenue à plusieurs reprises, évidemment, puisque c'est central dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, ça sera peut-être central un jour pour la question alimentaire, la question d'un service public qui serait peut-être une sécurité sociale comme la sécurité sociale qui existe aujourd'hui. Et donc samedi, on a créé un événement dans lequel on a invité 9 intervenants pour la défense et l'illustration du service public. Et on a rempli l'Alcazar avec 300 personnes, un débat qui a duré 3 heures, et très riche, avec des intervenants qui ont témoigné, d'autres analysés. Et puis on a eu la présence sympathique et très efficace de Lucie Casté, qui nous a fait l'amitié de venir pour faire l'intervention première sur ce sujet.
Et c'est important de le rappeler, c'est souvent plein, c'est extrêmement intéressant, ce sont des sujets évidemment accrocheurs et en lien avec l'actualité et j'allais dire les différents phénomènes de société. Et ce sont des thèmes que tu évoques, enfin que vous évoquez, parce que c'est un collectif aussi, avec, voilà, on a parlé récemment du travail, on peut parler aujourd'hui, on va y venir, avec le volet de l'aide alimentaire. Il y a donc une rencontre qui aura lieu le 29 avril, donc c'est dans 2 semaines pile, mardi 29 avril, notamment à l'auditorium avec Giorgia, j'espère que je le prononce bien, Trachani, un système alimentaire alternatif est-il possible? Donc on va l'évoquer évidemment et vous inviter, auditrices, auditeurs, à vous y rendre dans 2 semaines, et c'est important que ça soit dans cet esprit-là. Un mot aussi sur Manon Lalliot qui est avec nous. Vous êtes doctorante, alors on dit le Lab Urba, j'espère que je...
Oui, c'est mon laboratoire.
Exactement, voilà. Depuis plus de 2 ans, en octobre 2023, vous avez façonné la thèse sur l'accès, je cite, équitable à une alimentation de qualité. Évidemment, vaste, vaste dossier. On avait fait un dossier sur l'eau. Mon cher Michel, il y a quelques mois, on est sur l'alimentation, j'ai envie de dire, ça va de pair et la connexion est forcément fusionnelle là-dessus. Vous avez fait différentes expériences de stage, lors recherche, action, volontariat auprès d'associations qui ont œuvré pour les justices alimentaires. On va évoquer ce que c'est que la justice alimentaire, et vous cherchez en tout cas à questionner les rapports de pouvoir au sein sein des activités, des initiatives de la fameuse démocratie alimentaire. Après vous, on fera un dossier, ce sera sur la démocratie citoyenne, notamment le RIC et autres, l'engagement des Gilets jaunes, mais la démocratie alimentaire, elle existe. Vous avez différents domaines de recherche, notamment sur l'ESS, l'économie solidaire et sociale. C'est d'ailleurs votre thèse a porté sur l'impact des initiatives portées justement par les acteurs de l'ESS, sur l'accessibilité de l'alimentation. Tout ça, c'est guidé dans un premier temps, j'imagine, par une conscientisation de la société, par une passion et par une expertise. Et Christian évoquait le fait que vous soyez jeune, mais il y a une vraie expérience, une vraie expertise et un vrai engouement pour là-dessus. Et pour les agriculteurs aussi, on l'évoquera, le côté paysan, les AMAP qu'on a déjà reçus sur les zones de galère. Voilà, j'espère que le portrait vous convient.
Alors, du coup, quelques précisions quand même.
Mais je vous en prie,
J'ai pas fini ma thèse.
Oui, c'est exactement.
Voilà, et ça fait seulement un an et demi que j'ai commencé, donc c'est
seulement,
vraiment le
oui.
début. Même si ça fait plusieurs années, en fait, du coup, que je travaille du coup sur ces questions-là de justice alimentaire, etc., donc auprès de différentes associations, dans une perspective de recherche-action, même si, voilà, bon, c'est pas le sujet, mais la recherche-action, ça porte aussi à controverse, donc pour l'instant, je ne sais pas si je peux dire je fais de la recherche-action ou pas. En tout
cas, vous dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez sur
le sujet. Et je suis aussi investie dans des associations. Du coup, ma recherche, là, pour l'instant, elle porte sur là où les solidarités alimentaires à Marseille, dans un contexte de transition durable de l'alimentation, enfin, en tout cas, on le souhaite, et aussi dans une augmentation des inégalités socio-économiques. Et du coup, dans ce cadre-là, je fais partie de la COMAC. La COMAC qui donc va intervenir...
C'est quoi la COMAC alors ?
Alors, la COMAC...
Oui, décryptez-nous ce que c'est la COMAC.
La COMAC, en fait, c'est l'acronyme pour Collective Marseillaise pour l'alimentation et les communs. Et donc, c'est une association qui a commencé à être créée il y a un an et demi à peu près, dont le but est de garantir à chacun, chacune, un accès digne à une alimentation suffisante, saine et durable. Voilà, et du coup...
Ça veut tout dire, avec beaucoup d'espoir évidemment, mais c'est en tout cas un sujet qui est très profond et qui pour le coup concerne tout le monde.
Exactement. Et du coup, c'est vraiment l'objectif, c'est que ce soit un projet qui puisse être le plus universaliste possible. Donc c'est une association pour l'instant qui est composée par plusieurs acteurs des solidarités alimentaires, mais pas que, qui cherchent en fait à se coordonner pour faire advenir un projet de caisse commune de l'alimentation sur le territoire marseillais.
Très intéressant. Évidemment, Michel, pourquoi cette connexion avec Manon Malliot ? Explique-nous un petit peu. Voilà. Et puis ce sujet aussi très évocateur, où on va développer d'ailleurs les sous-thèmes, hein, puisqu'on a, on a encore une bonne demi-heure ensemble. Mais voilà, nous expliquer un petit peu ce qu'il en est.
Le contexte, c'est un partenariat avec la mairie du 1er et 7e arrondissement, de même qu'on a un partenariat avec celle du 4e et 5e arrondissement. Dans le 4e et 5e, c'est un débat par mois. Avec le 1er et 7e, on a défini une carte blanche donnée à un chercheur ou à un laboratoire de recherche, ou parfois à deux chercheurs, trois chercheurs. Et il se trouve que Giorgia Traciani, qui est italienne, qui est en France depuis quelques temps, qui est associée au laboratoire d'économie et sociologie du travail d'Aix-en-Provence, Giorgia a souhaité intervenir pour présenter sa recherche. En fait, Giorgia, elle étudie la COMAC.
Oui.
Elle va venir avec son objet de recherche. Elle va discuter avec son objet pour elle étudie la façon dont s'organise justement cette solidarité, cette coopération. Alors le sujet, évidemment, on l'a co-défini. Hein, c'est pour nous très intéressant qu'elle ait choisi ce sujet-là. Le sujet nous intéresse par ailleurs, même si c'est Giorgia qui l'a principalement choisi. Le sujet nous intéresse par ailleurs parce que la question alimentaire, elle est pleine d'enjeux. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux sanitaires, il y a des enjeux
humains,
environnementaux.
Oui.
C'est central pour la transition vers autre chose, bien sûr. Et donc c'est la raison pour laquelle on a donné cette carte blanche à Giorgia. Et elle a invité plusieurs personnes, donc Halima El-Bajnouni, qui est juriste et qui est dans la même université que Manon. Manon Lalliot, qui est doctorante, donc elle vient de se présenter. Mais aussi Arlette Fletcher et Elodie Maniaval, qui sont dans deux associations, le Bouillon de Noailles et puis Parole Vive. Il y a tout un tissu associatif dans la COMAC qui n'est pas que fait de chercheurs. Il y a la Confédération Paysanne, par exemple. Il y a le Super Cafouch, le magasin...
Qu'on connaît bien, Radio Galère, qu'on a déjà reçu.
Et qu'Émilie Cantrin a présenté à côté de moi le jour où elle a dit qu'elle n'était pas que syndicaliste. Voilà, c'est les raisons qui font qu'on est très content d'accueillir ça. On a déjà fait un débat sur l'obésité il y a quelques temps, c'est à quelques rapports quand même. L'an dernier, on a fait un débat sur la précarité alimentaire.
On est bien d'accord qu'il y a un vrai rapport, oui.
Et on va très probablement, le 19 juin, proposer un film de Valérie Simonet, « Manger pour vivre », qui présente justement l'expérience à Montpellier, l'expérience d'une caisse de solidarité.
Christian, je t'en prie.
Ben non, moi j'avais posé alors, la question. Il a dit Christian, attention, je ne sais pas Richard.
Ah ben alors à toi alors.
Je t'en prie, comme vous le souhaitez.
Moi,
Christian, je t'en prie.
Un système alimentaire alternatif est-il possible? C'est la question, je vous le pose à tous les deux.
Manon Laliot, géographe sociale qui nous répond sur les ondes de Radio Galère.
On n'est pas devant, malheureusement. Dans l'associatif ou dans la recherche, on ne peut pas savoir. Par contre... personnellement, et je pense que c'est pareil pour toutes les autres personnes qui vont intervenir du coup le 29, on est réellement militant pour que cette alternative advienne.
Devienne possible.
Et justement, on croit que par le fait d'étudier le présent, on peut peut-être aider à ce que cette alternative advienne au mieux et dans les meilleures conditions, donc de manière la plus juste possible. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir faire des études sur tout ce qui est précarité alimentaire, le travail des associatifs, comment les associations s'organisent à Marseille, comment existent ces inégalités alimentaires, etc. Puisque en fait, ça nous permet, nous, d'avoir un regard critique sur ce qui est fait, même s'il y a plein de bonnes volontés parmi le travail associatif. Ça nous permet, nous, de peut-être pointer parfois ce qui pose problème ou en tout cas ce qui pose question.
Ou ce qui peut être amélioré, sans doute.
Ce qui peut être amélioré, évidemment.
C'est intéressant parce que vous dites ce qu'on peut améliorer et comment combattre aussi la malbouffe. On le sait, c'est un problème récurrent et Michel l'a très bien dit, on parlait de problèmes sanitaires. Et c'est un vrai problème. On ne va pas parler des fast-food parce que ça serait réducteur, mais ça y contribue. Et vous savez qu'il y a tout un marketing qui est organisé par j'allais dire, ces forces puissantes, ces lobbings. Comment on arrive justement à... Est-ce qu'il faudrait... On parle d'éducation alimentaire. Là, vous dites justement sur les inégalités des ressources alimentaires. Est-ce qu'au final, il y a cette part d'inégalité. Comment on peut... certains disent « Oui, mais le bio, c'est trop cher, c'est pas accessible. » Alors qu'en fait, on se rend compte que ça l'est, que c'est accessible. Alors voilà,
pas tant que ça, attention.
Pas tant que ça, non, mais c'est vrai.
Maintenant, la tique
ça l'est pour une certaine partie de la population, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc faites bien de hocher la tête et de questionner
alors,
la chose.
Du coup, moi, je passe beaucoup de temps du coup, à me questionner sur ces questions-là. Et c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, j'étais un peu dans cette même vision de « Ah mais oui, mais les personnes, elles sont dans la malbouffe, elles mangent mal, je comprends pas pourquoi, etc. Il faudrait manger comme ci, comme ça. » Donc ça, c'est ce que je pensais il y a quelques années. Puis du coup, bon, avec ce travail de recherche, d'investissement dans les associations, il y a pas mal de choses que j'ai pu quand même réaliser et que pas mal de chercheurs aussi essayent de mettre en avant. Donc en fait, pour faire bref, ce qu'on réalise, c'est qu'on aboutit à un espèce de système à deux dimensions où il y a ceux qui auraient les moyens. Et quand je dis les moyens, c'est pas uniquement les moyens économiques, mais aussi les ressources
intellectuelles.
Intellectuelles, je trouve que c'est un peu réducteur, je dirais plus en termes de capital culturel et aussi de temps, tout simplement. Qu'on a tendance à un petit peu catégoriser de bobos, un peu pour les décrédibiliser, qui sont, eux, dans un type de consommation autour du bio, autour de l'éthique, etc., qui sont, par exemple, en étant en AMAP, solidaires de certains types de producteurs, et qui accèdent donc à une alimentation, on peut dire, entre guillemets, de qualité, c'est-à-dire qui est plutôt bonne pour leur santé. Et on va avoir ceux qui ont moins de moyens, donc moins de moyens, comme je disais tout à l'heure, pas uniquement économiques, qui, eux, n'ont pas le choix. Donc soit ils se retrouvent à l'aide alimentaire, Et donc là, je peux vous dire
ça, c'est
que
les plus précaires. Ça,
ça c'est les plus
oui,
précaires.
Oui, on peut rappeler l'aide alimentaire, ce que ça représente, enfin, ce que ça engendre et ce que c'est
alors,
précisément.
Oui, l'aide alimentaire, donc c'est assez, c'est très difficile en fait à vivre pour les personnes qui y sont. Et en plus, l'aide alimentaire, aujourd'hui, on sait bien que on n'y est pas seulement pour quelques mois. On y est très souvent pour une dizaine d'années.
Et il
n'y
a pas uniquement les étudiants, parce que souvent on a ce cliché disant
oui,
il n'y a pas que les étudiants,
on a
des familles.
Les étudiants ne sont clairement pas les seules personnes concernées, même si on a une augmentation, en effet, chez les étudiants, on a beaucoup de personnes, de familles, en effet, de personnes isolées, de personnes âgées aussi, de plus en plus. Voilà, donc c'est vraiment très difficile pour les personnes qui vont à l'aide alimentaire parce qu'elles n'ont pas le choix de ce qu'elles peuvent prendre, ou très peu de choix en tout cas. Et il y a aussi les personnes qui vont pas avoir le choix, entre guillemets, d'acheter le moins cher. Donc pas forcément du coup ce qui est le plus qualitatif ou le plus éthique. Et il faut savoir aussi que l'alimentation, c'est en fait le domaine du budget d'un ménage qui est le plus variable. Donc c'est-à-dire que une fois que vous avez payé votre loyer, une fois que vous avez payé vos charges, une fois que vous avez payé peut-être d'autres choses sur lesquelles vous êtes
votre voiture, assurance,
voilà, votre voiture, assurance, toutes ces choses-là qui elles sont immuables. Oui. Vous avez ensuite à payer votre alimentation et l'alimentation, vous allez peut-être
l'alimentation c'est immuable aussi, il faut bien manger.
Oui, il faut bien manger.
mais c'est irrégulier.
Là, vous avez une possibilité de payer
de gradation,
ou beaucoup.
Voilà,
c'est exact, ça. Tout à fait.
C'est devenu une variable d'ajustement,
c'est
ce qui
ça,
est
exactement variable
totalement absurde puisque c'est premier justement.
Exactement. Oui,
et
parce que
le
c'est
fait de pas dépenser du coup dans un certain type d'alimentation va évidemment poser potentiellement des problèmes de santé, et c'est pour ça qu'on a comme conséquence que les personnes les plus précaires et souvent les personnes qui sont à l'aide alimentaire ont souvent plus de problèmes de santé liés à leur alimentation. Donc ça peut être l'obésité, ça peut être les problèmes de cardiovasculaires, mais on a aussi une augmentation des maladies de Crohn par exemple, ce genre de choses.
Oui, qui sont des maladies quand même extrêmement quasi irréversible et parfois mortel. Donc on parle de quelque chose qui a une vraie incidence sur le plan sanitaire.
Et qui ont un coût aussi pour notre sécurité sociale.
Ça, c'est important de l'évoquer, le coût. Souvent, ça c'est quelque chose qu'on évoque dans les programmes politiques ou pour attaquer l'opposition. On dit oui, mais la sécu, ça coûte de l'argent, les fumeurs et autres. Mais là, pour le coup, on parle d'alimentation qui est quand même l'élément le plus basique. C'est-à-dire que si on ne s'alimente pas, on ne peut pas vivre. Hein, on est bien d'accord avec ça.
Et justement, c'est pour ça que nous, à la COMAC, on lutte pour un droit à l'alimentation.
À la bonne alimentation.
Oui, voilà, à une alimentation qui serait choisie et de qualité.
Il faut bien le préciser, ça.
Comment, justement, on peut choisir son alimentation ? Michel, tout à l'heure, évoquait cette rencontre, je le rappelle, 29 avril, à l'auditorium, à 18h, donc à la Canebière. Un système alimentaire alternatif est-il possible ? Évidemment, vous l'avez si bien dit, vous n'avez pas de boule de cristal, mais on a quand même l'impression que, de par la malbouffe, les inégalités, on parle des AMAP, on peut parler du bio, on peut parler des grands centres commerciaux qui malheureusement parfois justement divisent aussi les revenus des agriculteurs. Il y a tout cet esprit-là et on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est ce qui va caractériser en tout cas pourquoi on ira, je dis une bêtise sans faire de... Sans, j'évoque les marques, mais pourquoi on va à Lidl et moins Intermarché et pourquoi il faudrait pas aller plutôt au marché circuit court. C'est aussi souvent le porte-monnaie qui fait foi.
Oui,
Manon Lalio.
Carrément. Alors en fait, nous, c'est pour ça qu'on a un projet. Venez le 29 pour découvrir notre projet. Non, je rigole. Je vais vous expliquer
un petit peu. Exactement, il faudra venir.
Mais donnez-nous envie de venir voir.
Oui.
Venir le 29, allez.
Vous y arrivez déjà bien.
Donc face à ce constat un peu d'injustice dans notre alimentation actuellement, nous, on porte et on soutient en fait le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Donc il existe actuellement un collectif national qui porte la sécurité sociale de l'alimentation, dont en fait l'objectif, c'est, en s'inspirant un petit peu du modèle de la sécu tel qu'il a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, à l'époque on avait encore des communistes au pouvoir en 1946, le principe, c'est de donner accès en fait à des produits qui seraient conventionnés, donc environ 150 euros par mois et par personne, qui seraient gérés démocratiquement au niveau local par des membres de caisses.
Ça veut dire que ces produits seraient subventionnés par l'État pour faire diminuer le prix, pour qu'il soit accessible à tout le monde, des produits, ces produits de qualité. Hein.
Oui.
Je sais pas.
Alors, pour en fait expliquer, c'est que à l'état actuel, on a ce qu'on appelle des expérimentations. Donc, il y en a plusieurs qui existent en France, et notamment la plus connue et la première qui a été mise en place il y a quelques années, c'est celle de Montpellier. Mais il y en a d'autres à Strasbourg, il y en a quelques-unes à Paris, il y en a d'autres à Toulouse, etc. Et en fait, ces caisses communes d'alimentation, elles permettent en fait à plusieurs personnes de se regrouper ensemble. Et du coup, il y a un moment où ces personnes, elles se regroupent, donc elles font ce qu'on appelle un moment de connaissance commune. Donc, on va dire qu'elles s'éduquent ensemble, elles apprennent ensemble à partir d'intervenants, en se posant des questions, etc., justement sur ces questions alimentaires, et choisir qu'est-ce qui est une alimentation de qualité ou pas. Puis, dans un second temps, en fait, ce groupe d'habitants-habitantes qui fait partie de ce comité va décider comment va se mettre en place cette caisse commune d'alimentation. Et dans un troisième temps, cette caisse commune d'alimentation ou autre projet, si le groupe décide que finalement la caisse commune d'alimentation, ce n'est pas une solution pour mettre en place la démocratie alimentaire.
Oui, démocratie oblige forcément.
Voilà,
chacun
a droit. Il y a plusieurs types d'initiatives. Exactement. Qui peuvent exister, mais nous, c'est vrai qu'on a pensé à ça à l'origine.
Mais ça a du sens en tout cas.
Mais il existe en effet d'autres initiatives. Du coup mettre en place et sous quelles conditions. Et ce groupe-là, donc, il va décider quel produit ou quel magasin ou quel lieu, quel vendeur, quel producteur vont être conventionnés ou pas. Il y a certaines initiatives, elles vont conventionner des produits à 50%. Il y en a d'autres, elles vont conventionner tout un magasin, etc. Voilà. Et actuellement, à la Comac, on réfléchit donc à la préfiguration de deux groupes de citoyens. Un qui serait situé, on va dire, plutôt dans le 1er et 7e arrondissement, et un autre qui serait situé dans le 3e, 4e arrondissement.
3e arrondissement, on y est ici, voilà. La belle de
Lille. Oui, exactement.
Donc on serait sélectionné ici.
Eh oui.
Quelle chance.
Intéressant. Michel, on rappelle 9h10, il nous reste un petit quart d'heure pour parler donc de l'aide alimentaire, de la malbouffe, des revenus des agriculteurs, des inégalités de ressources alimentaires, avec Manon Lalu en tant que géographe social, et donc Michel qui est coordinateur de la structure Coude à Coude et professeur de SES à la retraite. Christian et Richard, n'hésitez pas à interpeller, à poser des questions à nos invités. Moi, allez, Richard, rapidement, puisqu'on part sur autre chose, je t'en prie.
J'avais juste un point d'interrogation quand on dit on malbouffe parce que c'est cher, on va, etc. Quand on voit, par exemple, actuellement, les boulangeries ont mis en place des sandwichs, n'est-ce pas ? Et ça leur a permis de faire 20% d'augmentation de leur chiffre d'affaires. C'est quand même colossal. Quand on voit les gens qui achètent ça, au prix où c'est vendu, ça pose une interrogation, parce que c'est cher et c'est de la malbouffe.
Les sandwichs.
Alors là, c'est vraiment un sujet. Donc moi, que je suis vraiment, je reste parce que ces sandwichs, bon, on met quand même de mayonnaise en dessus, machin, etc. Ça coûte très cher, vous voyez, et ça favorise la malbouffe et les habitudes alimentaires de tout un chacun. Alors je crois que dans le domaine de la malbouffe, il y a des tranches, ceux qui peuvent rien acheter. Ça, il faut faire vraiment...
Faut pas l'oublier, oui. Elle va droit au but de ta question, mon cher Richard.
Après, vous avez une tranche aussi qui a des moyens à demi-mesure, si vous voulez, mais qui aujourd'hui, même quand on va dans des McDo, excusez-moi, mais c'est cher pour ce qu'on mange. Je suis désolé, c'est très cher pour moi. Voilà. Alors, je crois qu'il y a aussi un problème de formation, je crois, qui devrait être fait par rapport aux gens qui... Voilà. Moi, c'est une question. Hein, c'est...
Réponse de Manon.
Moi, je suis... vous voyez, après, on a des problèmes d'obésité, on a des problèmes d'obésité, d'habitude, etc. Voilà.
Parfait. Merci, Richard, pour cette longue question intéressante.
En vrai, c'est vraiment une bonne question. Et... J'ai tendance à ne pas utiliser trop le mot malbouffe parce que je le trouve assez péjoratif en réalité. Et ça dépend en fait à quel moment on est dans la malbouffe. C'est-à-dire que si une seule fois vous mangez un sandwich ou une seule fois vous allez au McDo, on est d'accord que c'est pas ça qui va vous faire du mal. Donc je pense qu'il faut pas non
exactement.
Plus...
Je suis d'accord, toutes choses n'est pas mauvaise à condition de les prendre avec...
Après, il faut se poser la question de... Pas, est-ce que les personnes, elles sont éduquées ou pas, mais pourquoi elles vont manger à tel endroit ou elles vont manger tel type d'alimentation? Il y a plusieurs choses. Il y a, par exemple, pour la question des sandwichs en boulangerie. Moi, la première chose à laquelle je pense, c'est en fait, quand vous travaillez et que vous n'avez qu'une demi-heure de pause ou que vous êtes un peu dans le rush à midi, le seul endroit où vous pouvez aller acheter rapidement à manger, ça va être la boulangerie. Et peut-être que, vu que vous travaillez 5 jours ou plus par semaine, vous mangez tous les jours un sandwich plein de mayonnaise.
Mais on pourrait faire aussi son sandwich. On mettrait les bonnes choses dedans.
Bah oui, mais du coup, faudrait que je
pose cette question parce que beaucoup
de fut un temps où se préparait la gamelle.
Voilà, parce que les
fut
gens
un temps où les gens se préparaient
aussi.
À l'avance pas chez eux, c'est quelque chose qui est plus sain, en fait. Hein, je m'excuse.
Oui, mais il faut savoir que fut un temps, la personne qui préparait la gamelle, c'était votre conjointe qui, elle, ne travaillait pas, peut-être. Et du coup, peut-être ça permettait un système.
Moi, franchement, ça me convient pas de toujours mettre la faute sur autre chose. Vous voyez, les gens peuvent s'habituer autrement.
Non, mais
quoi.
Ce que je veux dire, c'est que
je suis désolé, mais
c'est que du coup, il y a plusieurs raisons, et je pense pas que ce soit qu'une question d'éducation. Vraiment pas. Et j'ai vraiment, enfin, en tout cas, de tous les entretiens que j'ai pu mener. Et toutes ces choses-là, j'ai vraiment vu qu'il y avait une réelle volonté, en fait, de la part de beaucoup de personnes de s'alimenter au mieux et de ne pas pouvoir, en fait. Et c'est humiliant de ne pas pouvoir choisir son alimentation.
Et pour soi-même et pour ses enfants aussi, parce que parfois...
Pour soi-même et pour ses enfants,
oui, parce
que c'est encore plus dur quand on
et oui, parfois, c'est-à-dire qu'on on est dans l'incapacité financière de pouvoir donner une alimentation saine et équilibrée à nos enfants. Alors attention, et je pense que la gamelle, quand même, je trouve que ça a toujours de la force, mais c'est moins développé, évidemment. Après, on peut aussi préparer des repas toute la semaine, les congeler. Enfin, y a des mamans qui font ça, et des papas, d'ailleurs, parce que le cliché réducteur...
Les hommes aussi savent faire des cuisines. Hein. Excusez-moi,
on t'entend pas, Richard.
Il n'y a plus des femmes. Hein.
Bien sûr.
Exactement, oui.
Mais c'est juste que, en tout cas, moi, personnellement, j'arrive pas à trouver le temps à faire ma gamelle, quoi.
Bah écoutez, oui, non, mais il y a des cas. C'est toujours un problème de détail dans ces analyses.
Michel.
C'est un cas vraiment impossible. Il y a des cas aussi où ça devrait être possible et les gens ne le font pas.
Il nous reste 10 minutes.
C'est pas possible, c'est sûr. Hein.
Moi, j'ai un peu le réflexe des sciences sociales, puisque je les ai enseignées pendant longtemps et qu'on fait venir beaucoup de sociologues. Il y a des déterminants sociaux à tout ça. On a certes un habitus, une socialisation, on a appris des choses, on a peut-être appris à pas trop bien choisir et manger, etc. Mais après, il y a surtout les conditions de travail, la façon dont le temps est structuré. On pourrait avoir des réfectoires, des cantines dans les entreprises. Il y en a de moins en moins.
Exactement,
on pourrait avoir des structures communes dans les quartiers qui accueillent des gens d'entreprises différentes. On pourrait avoir des salles qui permettent que la gamelle qu'on s'est préparée, on puisse la consommer de façon agréable, la réchauffer. Moi, je voudrais surtout répondre à la question de Christian tout à l'heure, à savoir, est-ce que c'est possible de réaliser ça? Il a fallu plus d'un siècle pour réaliser la sécurité sociale.
C'est vrai.
Au 19e siècle, il y avait des sociétés de secours mutuels.
Et la guerre aussi, je pense, aussi qui a joué.
La guerre a joué, il y a des circonstances qui ont joué, mais il y a aussi tout un mouvement, il y a des mouvements très différents. Hein. Il y avait le paternalisme de certaines entreprises, il y avait quelques mesures de l'État, puis il y avait surtout le mouvement social qui s'est organisé, qui a créé des sociétés de secours mutuels qui ont été une sorte de modèle pour créer la sécurité sociale. Aujourd'hui, on peut se dire que ça ira sûrement plus vite pour la sécurité sociale alimentaire, parce qu'on est quand même dans des sociétés plus riches, mais qu'on en est à la phase d'expérimentation, à la phase locale, minoritaire. Mais on peut rêver d'une généralisation, on peut rêver que ça soit l'État qui oblige tout le monde à cotiser en fonction de ses moyens et qui redistribue 150 euros par personne ensuite consommer. Bon, avec une gestion démocratique, hein, parce que s'il s'agit d'un gros machin bureaucratique, bien sûr, on aura perdu tout l'intérêt de ce foisonnement, de cette vie démocratique, parce que c'est aussi très intéressant. Donc, pour nous, c'est un peu un laboratoire d'utopie concrète, en fait. Hein. Et si ça marche, ça se généralisera.
Intéressant, en tout cas, ce que vous évoquiez. Je reçois des SMS du réseau et je les remercie, qui nous disent la malbouffe aussi, il y a un gros lobbying américain. On nous dit aussi que le bio, c'est cher. Donc, on aimerait tous aller manger du bio, mais ça reste cher. On a fait des dossiers avec les AMAP qui jouent le jeu et qui offrent, en tout cas, une vraie alternative, puisqu'on parle d'alternative. Mais en effet, c'est pas accessible pour toutes et pour tous. Et ce que disait avec pertinence Richard, c'est que, en effet, cuisiner soi-même, c'est peut-être la meilleure option.
Évidemment, c'est la meilleure option. Après, en effet, mettre en place des cantines, comme disait Michel, c'est carrément aussi une alternative pour les personnes qui n'ont pas le temps, etc. Moi, ça me faisait penser aussi à cette question de la malbouffe, etc. En fait, c'est aussi beaucoup la faute qui est reportée sur les individus, c'est-à-dire, mais de manière perpétuelle, sur l'écologie de manière générale. C'est votre faute, c'est vous qui avez les mauvaises habitudes, etc. Mais en fait, la question, c'est aussi de se dire, mais pourquoi en fait on a des aliments qui sont mauvais dans nos assiettes? Pourquoi on a
des aliments empoisonnés avec
empoisonnés,
les pesticides,
voilà. Ouais. Ou
alors, pourquoi justement, tiens.
La question est là. Alors moi je suis pas spécialiste de tout ce qui est lobby, supermarché, etc. Mais en tout cas oui, on est dans un système où l'agroalimentaire
on nous encourage à manger mal. Il faut le dire, hein, tout simplement par la pression économique.
Ouais, et on nous culpabilise de manger mal.
Voilà, exactement.
Exactement, aussi.
Michel, peut-être.
C'est pour ça que c'est pervers.
Sur quel sujet? Sur le fait qu'on mange mal, là.
Et qu'on nous encourage à manger mal, c'est-à-dire à la fois on dit qu'il y a un déficit de la sécurité sociale avec une augmentation des maladies, etc., et à la fois on nous donne des aliments qui nous empoisonnent. Donc évidemment qu'on va tomber malade. Mm. Alors comment faire?
Il y a des intérêts économiques à combattre, à infléchir. On peut obtenir des réglementations qui soient beaucoup plus favorables. Et puis, il y a toute une organisation sociale qui pourrait aller dans le bon sens. Par exemple, les cantines dans les écoles.
Ils devraient être tous bio.
Gratuites, bio, exactement. Avec une alimentation qui ne vienne pas de très très loin. On n'a pas parlé de cette question de environnementale, à savoir, aujourd'hui, on s'alimente aussi avec
tout
des produits,
Michel,
qui viennent de très loin, qui prennent de l'avion.
Du réchauffement climatique, du coup.
Sur les cantines, il y en a certaines qui sont arrivées à faire ça. Hein.
Oui.
Pas beaucoup, malheureusement.
Oui.
Parce que là, vous avez... Enfin, je partage tout à fait ça. C'est que prendre des produits qui sont à côté plutôt que des produits qui sont... etc. Hein, donc, et puis à servir quand même aux enfants de la bonne qualité. Certains y sont arrivés. Certains ont même réussi à prendre des chefs 5 étoiles et à faire en sorte que les cantines soient bonnes.
Alors, chef 5 étoiles, je pense
cas,
que chef 5 étoiles,
ça n'existe
pas. Il y a eu même
des démonstrations de vous voyez.
Tu voulais donc, dire chef 3 étoiles, Richard.
Donc, c'est une volonté vraiment qui est importante.
Monsieur Richard, chef 5 étoiles, ça n'existe pas, mais tu as compris, tu voulais dire chef 3 étoiles, et tu fais bien de l'évoquer, tu as bien raison. Il nous reste 4 minutes, Michel et Manon, donc je vous laisse, en tout cas, s'il y a des sujets qu'on aurait occultés, à aller là où vous souhaitez aller, puisqu'il nous reste 4 minutes pour conclure.
Je laisse Manon d'abord.
Ce dossier.
Ok, et bah du coup... Pour rappeler du coup que la COMAC, comme je disais, Collective Marseillaise pour l'alimentation, elle est commune. Actuellement, on souhaite créer 2 comités d'habitants-habitantes qui sont en train d'être préfigurés. On est en train de chercher des fonds. Si vous êtes une asso ou même individuellement, vous pouvez nous contacter et même déjà adhérer via Hello Asso. Vous pouvez nous contacter par mail, donc le mail c'est contact@comac-ssa.org et évidemment nous rencontrer le 29 avril mais aussi le 24 mai à la belle fête de mai où on va animer un atelier autour de la démocratie alimentaire.
Alors le 29 avril, donc c'est sur 61 La Canebière.
Oui, c'est sur inscription.
Donc, sur inscription.
Essayez de nous écrire. Alors, je peux donner mon mail pour les gens qui ne sont pas sur notre liste de diffusion. michelpotoudis@gmail.com et j'envoie le lien. Mais sinon, il y a un flyer qui va circuler et sur lequel il y a un QR code et sur lequel on peut s'inscrire. S'il y a de la place, les gens non inscrits, bien sûr, rentrent. Hein, mais l'auditorium du 1er et 7e ne contient que 80 places et on ne peut pas faire rentrer plus de 80 personnes, plus les 6 intervenants.
On peut dire un mot sur les 6 intervenants, il nous reste 3 minutes là-dessus aussi, Michel, c'est quand même intéressant de savoir en tout cas qui on va voir.
Oui, alors dans le cadre de ces cartes blanches données à un chercheur, c'est forcément un chercheur qui coordonne la définition du sujet et puis le plateau, on va dire, le casting. Et là, pour une fois, ça fera pas mal de monde. Georgia Traciani, donc chercheuse en organisation, qui étudie l'organisation, son efficacité, nous a permis d'inviter Halima El-Bajnouni, qui est juriste, Manon Laliot, qui est géographe, et puis Arlette Fletcher et Elodie Maniaval, qui sont dans 2 associations, Le Bouillon de Noailles et Parole Vive. Mais il y a plein d'autres associations, d'ailleurs, membres de la COMAC. J'ai cité le Super Cafouche tout à l'heure. J'aurais pu citer l'Après-M,
donc
un endroit où on fait du fast-food, mais où on a la prétention, je l'espère réussi, de faire aussi du fast-food de qualité. Il n'y a pas de raison pour que ça soit pas le cas. Et puis, c'est aussi solidaire.
Voilà, avec la solidarité de pouvoir manger gratuitement sur certaines personnes.
Pour certaines personnes,
dans ce fast-food. Ouais. Ça, c'est une très bonne action. Un très bon truc. Voilà, vous avez raison de le citer.
Voilà, et puis à l'avenir, on va continuer sur ce sujet puisque c'est déjà la 3e et il y aura une 4e fois. Donc, j'ai parlé du film très probablement le 19 juin à l'Hyperion, le film Manger pour vivre de Valérie Simonet qui présente l'expérience de sécurité sociale alimentaire de Montpellier, qui est déjà...
qui est en cours déjà, qui fonctionne.
Qui fonctionne, oui, avec 400 personnes, il me semble. Et puis, on a tout un tas d'autres activités. Alors, je peux dire, le 15 mai, à l'Hyperion, un débat sur les logiques sociales du désordre électoral. Comprendre la volatilité politique, les votes RN et la démocratie de l'abstention. On aura la chance d'accueillir 2 professeurs de sciences politiques, Philippe Aldrin, prof à Sciences Po Aix, et Christelle Lagier, qui est prof à l'Université d'Avignon, plus un témoin associatif, Youssef Mamri, qui a beaucoup milité contre l'abstention. Je pense que c'est un débat utile pour la démocratie, pour essayer de comprendre et peut-être de sortir de quelques idées reçues, comme l'idée qu'il y aurait un électorat qui serait un bloc immuable. L'électorat RN n'existe pas, en fait. Il se renouvelle, il change, etc. C'est ce que nous expliqueront ces 2 profs de sciences politiques. Et surtout, c'est ce sur quoi ils admettront un débat. Ils organiseront un débat avec nous. Voilà, on va probablement aussi passer un film sur Gaza, Un médecin pour la paix. C'est très probablement autour du 22 mai, au Pâté Madeleine, qu'on fera ça. Alors, bien sûr, un message de paix. Donc, voilà, beaucoup d'initiatives à l'avenir.
Enfin, on vous invite à aller assister à tout ça, parce que c'est très instructif. Et puis, ça permet de partager votre avis, leur avis. C'est très riche, en fait. Hein. Et puis, ce sont quand même des spécialistes de tous les domaines.
Voilà. Et on espère assister à la soutenance de thèse de Manon bientôt, oui, qu'elle nous annoncera peut-être sur Radio Gadère.
Elle risque de
la prendre un petit peu de temps.
À Paris. Hein.
Venez à Créteil.
Vous nous présenterez votre thèse une fois qu'elle est faite, par contre, voilà.
Ah bah avec plaisir.
Voilà. À Créteil, il y a des épis de maïs sous forme d'immeubles. Oui. Donc il y a de l'alimentation, je ne sais pas
vrai,
si c'est très bio.
C'est très particulier l'immobilier, c'est vrai.
Ouais. Entre 2 autoroutes.
Voilà.
Voilà, donc tout ça est gratuit, bien sûr, sous inscription, oui, on le rappelle.
Oui.
Hein.
Alors le ciné-débat, non.
Sauf le ciné-débat, oui.
Avec un tarif réduit, en général 6 euros. Mais sinon, tout ce qu'on fait est gratuit. Les intervenants sont bénévoles et militants.
Et de valeur.
Et de valeur, effectivement. Et puis, les gens qui sont dans les salles viennent pour... prendre connaissance de quelque chose et débattre.
On peut débattre.
Et ils sont aussi de valeur au sens où le savoir circule, où c'est un partage. Hein.
C'est un échange d'idées, c'est-à-dire il n'y a pas une parole pontificale et puis les autres qui écoutent, on échange et on voit ce qui ressort de ces discussions.
C'est un échange qu'on fait évoluer les choses d'un côté ou de l'autre, de part et d'autre. Hein. Voilà, c'est ça qui est riche.
On peut être en désaccord, mais on admet la parole de tout le monde parce que c'est le seul moyen d'avancer. Pour éclairer des sujets qui sont compliqués quand même.
On a parlé de l'Hyperion.
Vous avez raison. Ouais.
On a parlé de l'Hyperion. Il est où déjà alors?
L'Hyperion, c'est 2 bis avenue du Maréchal Foch. Voilà. Ça sera pour le 15 mai, pour le débat sur le vote et l'électorat. Et puis l'auditorium de la mairie du 1er 7e, c'est sur la Canebière, au 61.
Ça, c'est plus connu, voilà, c'est ça.
Donc très facile à trouver. Il faut arriver à temps pour être dans les 80 places parce que. Ouais. Cas particulier, c'est un local municipal, on ne peut pas faire rentrer plus de 80 personnes.
Oui. Non, mais c'est normal qu'il y ait des jauges dans toutes les salles, hein, de toute façon. C'est la sécurité, quoi.
Donc, à l'Hyperion, c'est extensible, on rajoute des chaises, on s'assoit par terre, on est debout.
Tout est possible.
C'est plus.
Voilà. On arrive facile. À la fin. Est-ce que la ville de Marseille vous soutient?
Alors la ville de Marseille, les mairies de secteur, en nous accueillant, voilà. Et en ayant des accords amicaux comme
donc,
ça c'est une forme de soutien.
Voilà.
On a un peu travaillé à la mairie du 15e, 16e, on y est allé deux fois, on est allé une fois faire une opération avec la mairie du 6e et du 8e, on en a fait une avec la mairie du 9e et du 10e également.
Donc les mairies sont derrière vous, ça c'est important.
On doit conclure, on a dépassé 3 minutes et nos invités nous attendent, je vous faisais des signes, mais a priori vous ne les avez pas vus, mais ça fait partie aussi des lois du direct, et nos invités veulent aussi avoir leurs 30 minutes.
Merci beaucoup
Michel, coude à coude. Merci beaucoup à Manon Laliot d'avoir été avec nous, géographe social. C'était un vrai plaisir, un dossier extrêmement porteur, extrêmement intéressant. Pause musicale qu'on va écourter, c'est les covers avec Rolling Stone. Merci Christian pour ce choix. Et juste après, donc, on va parler du RIC avec Béatrice et Edouard Gilet Jaune.
C'est en lien d'ailleurs le RIC.
Tout est en lien. Merci.
Merci.
Jumping Jack Flash sur les ondes Radio Galère, on est juste après ça. Radio Galère 88.4. Nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'actualité locale. C'est un dossier pour lequel, évidemment, on est très sensible. On va parler du RIC avec nos gilets jaunes du jour qui sont avec nous. On connaît évidemment très bien Édouard Ross qui est avec nous, gilet jaune marseillais, mais pas que. Gilet jaune, j'allais dire, du monde citoyen. Il est avec nous accompagné de Béatrice. Et justement, on va la présenter. On va surtout la remercier dans un premier temps puisqu'elle est venue depuis Cuers. Elle a pris le train ce matin, et il faut quand même le signaler. Vous verrez qu'elle est extrêmement impliquée, consciencieuse et en plus pertinente. Vous êtes gilet jaune constituante depuis le début du mouvement. Vous êtes inscrite à l'opération RIC depuis plus de 7 ans, enfin quasiment 7 ans, novembre 2018. Vous êtes inscrite au mouvement constituant populaire en 2021 et vous avez organisé plusieurs votations citoyennes en partenariat notamment depuis 2021. Il y a beaucoup de choses à dire, mais avant ça, bonjour Béatrice, bienvenue sur les ondes de Radio Galère.
Merci, bonjour à tous.
On est ravis de vous accueillir. Et bonjour Édouard.
Et bonjour.
Voilà, qu'on connaît mieux
sur les ondes. C'est Édouard, c'est ça?
Oui, on connaît très bien Édouard Gilet Jaune. On peut saluer Sylvain, on peut saluer toute l'équipe des Gilets Jaunes. Béatrice est venue avec nous. On va avoir 27 bonnes minutes pour parler du RIC, mais pas que. Il y a plusieurs choses à évoquer. Juste avant ça, Édouard va introduire un petit peu l'ADN et les différents projets en cours, mon cher Édouard.
Eh bien, on profite pour remercier de nouveau Radio Galère de nous inviter et de pouvoir s'exprimer.
Avec grand plaisir.
Il nous semblait que, effectivement, une émission sur la démocratie directe et le référendum d'initiative citoyenne.
Le fameux RIC, comme on entend.
Le fameux RIC.
Tout à fait.
Que vous avez souvent entendu dans les rues, ailleurs, sur les pancartes. Mais il fallait désormais rentrer dans le vif du sujet et rentrer vraiment et expliquer ce que c'est. Donc on profite et on remercie encore Béa d'être là.
Exactement. Un mot sur le moral des troupes, mon cher Édouard. Il y a eu plusieurs actions. On sait qu'il y avait là Édouard Chouard qui était présent la semaine dernière, le 12 avril, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, effectivement.
Qu'est-ce que j'ai dit, pardon ?
Étienne Chouard.
Pardon, j'ai Édouard face à moi, donc évidemment Étienne Chouard, autant pour moi. Où vous étiez présente et présent.
On était présents, effectivement.
Donc ce sont aussi il y a de l'actualité, ça bouge, ça gravite, il y a de quoi faire, comme dirait l'autre.
Et si je peux me permettre un peu une image, on continue à semer, puisque souvent on me demande, oui, on continue à semer, mais on attend la pluie, quoi.
Oui. L'image est très bonne.
Il y a aujourd'hui la pluie.
Ouais, mais bon.
Est-ce qu'il pleut? Voilà, nous on est un peu à faire. Il pleut là ce matin?
Il a plus cette nuit,
il pleuviote.
Bon, parfait. Béatrice, parlez-nous un petit peu. Alors, vous avez participé à la coordination nationale aussi de l'opération RIC. Vous êtes membre d'Espoir RIC. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est surtout parler de la Constitution et parler de la démocratie citoyenne et du RIC. On veut tout savoir, Béatrice.
Absolument. Alors, juste pour présenter, initialement, c'est l'Assemblée des Assemblées de Commercy, la première Assemblée des Gilets jaunes nationale qui a été secrète, qui a fait sortir le RIC constituant comme la première revendication des Gilets jaunes. Et toute la France a adopté, bien entendu, cette décision.
Et puis il y avait une vraie spirale, il y avait un vrai engouement.
Absolument. Il y a tout un travail qui a été fait sur les revendications globales. Et donc, avec tout ce que la population subissait. Et moi, ça fait depuis donc 2018... Enfin, début 2019, puisqu'on a commencé, une fois inscrite à l'opération RIC, on a commencé les ateliers constituants chez nous le 5 décembre. Donc, tout de suite après le début du mouvement.
Alors, justement, parlez-nous du RIC et du RIC constituant. On sait que le support de la Constitution est un support, fondamental. Exploité par le pays dans lequel nous sommes, certes, mais en tout cas, il a un vrai support.
Béatrice. Alors, le RIC, c'est avant tout l'outil de souveraineté des citoyens. Hein. C'est le peuple, pour le peuple, par le peuple. Donc, comme on l'a dit, c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est un référendum qui est organisé à l'initiative d'une partie des citoyens. Il est souvent confondu avec le référendum d'initiative populaire ou partagée, que nous avons dans la Constitution.
Quelle est la différence, justement, alors ?
Ce que je veux préciser, c'est qu'il n'est ni partagé, ni populaire, parce qu'il est à l'initiative du président de la République sur proposition du gouvernement ou des deux assemblées. Donc, les citoyens, ils n'ont pas voix au chapitre dans l'histoire. Et contrairement à ça...
Ce qui est problématique, en tout cas, humainement parlant, déjà.
Absolument, absolument. En plus, il faut, si on lance une pétition, il faut un soutien d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Il faut savoir qu'il y a 45 millions d'électeurs inscrits. Donc, ça demande un résultat de 4 500 000 signatures, ce qui est inatteignable. Et c'est justement là-dessus que le système joue.
Et le RIC, alors, combien il faut de personnes, justement, pour que ce soit adopté, tiens ?
Alors, le référendum d'initiative citoyenne, justement, le RIC, je voulais d'abord parler des différentes possibilités.
Faites comme vous le souhaitez, Béatrice, on vous suit sans
mais,
problème.
Mais il faut, je vais résumer là, il faut modifier la Constitution pour arriver à quelque chose de notre part. C'est pour ça qu'on propose le RIC constituant. Donc les différentes étapes, c'est on fait une proposition de loi, un projet, une modification de loi, de décret ou d'article. La deuxième étape, c'est le soutien. Il faut que la proposition retienne suffisamment de soutien par les citoyens. Ensuite, c'est l'information. Il faut qu'ils sachent précisément de quoi il s'agit, comment ça se passe, donc s'informent.
Oui, et comment est perçue l'information ? Parce qu'on a souvent aussi de la désinformation, donc c'est important de le rappeler.
Absolument.
Et on rappelle que vous faites un travail colossal là-dessus. Ouais.
Peut-être, donc, il faudrait mettre l'information avant le soutien, parce qu'on ne peut pas soutenir si on n'est pas informé.
Attention. Oui, mais ça fait partie de la présentation, normalement. Ça fait partie de la proposition, en principe. Donc ça, la période durant laquelle ça se passe, ça varie en fonction des sites sur lesquels sont déposées les pétitions. Ensuite, on passe à la votation. Et si elle est adoptée, elle est mise en application. Il y a différentes formes de référendum d'initiative citoyenne. Donc les plus connus, ce sont souvent le RIC CARL ou le RIC ETM en toute matière. Alors le RIC CARL, c'est quoi ? Eh bien, c'est le RIC qui est à la fois constitutif, qui permet donc de modifier la Constitution. C'est impérativement à ça que nous devons arriver pour redonner la parole aux citoyens, pour que le peuple reprenne sa souveraineté. Il y a l'aspect abrogatif pour annuler des lois qui nous asservissent depuis trop longtemps. Il y a l'aspect révocatoire pour la destitution d'un membre d'une institution. Et le RIC législatif qui nous permet de réécrire les lois qu'on aura demandé d'abroger. C'est pas figé, hein. Il y a d'autres formes qui sont possibles quand même, qui sont moins connues. La forme notamment ratificatoire ou conventionnelle qui permet la ratification ou la dénonciation d'un traité, d'un acte ou d'un accord international.
Oui.
Le RIC suspensif qui est un RIC veto qui permet de suspendre ou d'annuler une loi avant qu'elle soit promulguée, avant qu'elle soit en vigueur. Et le RIC convocatoire ou dissolutif qui concerne les assemblées.
Oui, et puis on se rappelle aussi par rapport à Emmanuel Macron, qu'à un moment donné, on souhaitait qu'il y ait un RIC justement. On parlait de différents projets de loi et on sait que la population, elle était légitime pour en tout cas trancher, puisqu'on parle de démocratie citoyenne. Enfin, on est quand même dans des pays où a priori la démocratie doit être respectée. Bon, on s'en est bien rendu compte avec ce qui s'est passé ces dernières années que ce n'était pas le cas. Et ce qu'a réalisé Emmanuel Macron, où il a finalement perdu, mais au final gagné. Enfin, ça, c'est quand même incroyable. Donc, on s'en rend bien compte. Comment c'est perçu ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, quand je dis c'est essoufflé, c'est un fait. Je parle au niveau de la quantité de personnes. Mais il y a évidemment une projection, il y a évidemment de l'espoir. Vous êtes pour certains des travailleurs, d'autres des retraités, d'autres il y a aussi la génération de la jeunesse qui est présente aussi et qui veut aussi incarner. Et on a envie d'y croire. Mais comment on arrive à sensibiliser par rapport à tout ce que vous dites, et notamment sur l'éveil des consciences ? C'est un élément que vous avez abordé,
oui.
Que vous allez aborder, Béatrice.
Alors, arriver à sensibiliser, c'est quelque chose que j'essaie de faire à chaque fois qu'il y a des réunions de gilets jaunes, des assemblées, ou quel que soit l'événement, à partir du moment où on est regroupé, je m'efforce d'informer de l'avancement concernant le RIC, des démarches qui ont été faites ou qui sont en cours à chaque fois. Donc, en fait, pour parler du RIC constituant, ce que je voulais dire, c'est que, je reprends les propos d'Étienne Chouard, le RIC, c'est la procédure démocratique moderne qui permet au peuple de décider au lieu d'élire. C'est-à-dire, les gens vont trouver ça un peu bizarre.
Élire, rien n'est bizarre sur Galère.
Élire, c'est renoncer à voter. Voter, c'est décider, c'est-à-dire décider nous-mêmes de nos choix et les appliquer par un vote. Or, élire, c'est donner à un représentant le droit de décider à notre place. Pourquoi ça se produit comme ça ? Parce que il y a les contraintes de la population, c'est-à-dire que les gens travaillent, ils ont leurs contraintes familiales. Il y a la complexité des textes qui concernent le RIC, puisque ça touche la Constitution. Il y a l'incompréhension, et donc beaucoup de personnes pensent que la meilleure solution, c'est de déléguer et de faire confiance aux candidats. Or, c'est pas du tout le cas.
Oui, et puis on voit qu'il y a une défiance aussi ces derniers temps vis-à-vis de la classe politique. Alors, un peu moins peut-être pour les élections des maires qui arrivent, parce que la commune, c'est souvent, on est attaché à son village ou à sa ville quand c'est pas des grandes villes. Donc on se dit, bon, on va voter pour tel ou tel maire. Force est de constater que la défiance vis-à-vis des élections législatives, elle est bien présente, européenne, même les présidentielles. On sait que ça fait parfois chou blanc aussi. Donc puis les alliances, on sait qu'il y a beaucoup de démagogie. C'est un système quand même permissif aussi, Béatrice.
Alors tout ça, la défiance de la population, elle est tout à fait légitime avec tout ce qui s'est passé. Mais il y a une raison bien précise aussi que je voudrais que les gens comprennent justement pour pouvoir s'approprier le processus du RIC.
Je vous en prie.
Parce que c'est très simple. Les représentants ne nous représentent pas, on l'a constaté, pour une bonne raison. C'est que si on prend l'article 26 et 27 de la Constitution, on constate que aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet en matière criminelle ou correctionnelle d'une arrestation ou d'une autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée dont il fait partie. Il y a quelques exceptions concernant l'importance des délits. Et en ce qui concerne l'article 27, il nous dit « tout mandat impératif est nul ». C'est-à-dire que le vote du député, il est personnel. À partir de ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que la population subisse le non-vote des représentants.
Exactement, on comprend bien.
Ils ne courent aucun risque d'être pénalisés par leur attitude. Et par ailleurs, les conséquences idéologiques partisanes, les pressions qu'ils subissent, les consignes par rapport aux partis ou les lobbies, automatiquement, ça fait qu'ils sont entièrement libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est toujours l'aspect partisans, la plupart du temps, il y a quand même des députés qui font le maximum, hein, mais la grande majorité, ils agissent en fonction des consignes et de l'idéologie de leur parti. Ça ne correspond pas aux besoins de la population. Voilà, donc on en est là. Et pour l'instant, le RIC, c'est le seul outil capable de garantir que les promesses de ces candidats élus, justement, seront tenues ou soumises à référendum par des citoyens qui les estiment bénéfiques, et la population tranchera si on a le RIC constituant, puisqu'elle sera souveraine. À ce moment-là, les citoyens ne seront plus bernés, comme c'est le cas actuellement. Ils auront également la possibilité de présenter et de soumettre des propositions ignorées précédemment. Et c'est aussi une force dissuasive massive, puisque son existence dissuaderait les élus de voter des lois qui vont contre l'intérêt des citoyens. Donc, il ne sera pas utilisé en permanence, contrairement à ce que font croire beaucoup de nos élus qui se servent de cet argument pour s'y opposer.
On est d'accord avec ça. Il nous reste 12 minutes, Béatrice. Donc il y a peut-être aussi des questions qui peuvent rebondir. Il y a Edouard aussi qui veut compléter quand il le souhaite. Peut-être une question de Christian et ensuite on reprend directement le cours avec Béatrice.
Alors, je ne sais pas si c'est un exemple de RIC. Par exemple, ce qui se passe en Suisse, est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable en France, cette forme-là? C'est une sorte de RIC, ce qui se
tout
passe.
Tout à fait. Voilà. C'est un RIC. Alors, c'est un des pays qui pratique la démocratie.
Est-ce que cette forme-là serait peut-être acceptable
viable chez nous, sur le territoire hexagonal?
Tout à fait.
Edouard. Il n'est pas le seul non plus.
Il n'est pas le seul, mais c'est celui qu'on connaît le plus. Hein,
il
voilà.
Y a une liste ici.
Ah, c'est bien de le dire. Moi, je connais que le Suisse. L'Irlande fait ça aussi.
Il y a le Danemark.
Oui, pays scandinave.
Il y a plusieurs États des États-Unis, le Vermont, la Californie, encore un autre qui m'échappe.
Le Liechtenstein.
Et il y a Europe, il y a le Liechtenstein. Et en Amérique du Sud, il y a l'Uruguay qui.
L'Uruguay qui est bien connu pour ça. Oui.
Et si je peux me permettre.
Tu peux, mon cher Edouard.
Souvent démontré comme un pays de pirates, le Venezuela.
Le Venezuela.
Mais oui.
Le
oui.
Maduros, c'est ça. Le Venezuela, Béatrice, c'est sûr.
C'est pas
à vérifier, mais en tout cas, la réflexion est là.
Une contestation, à vérifier.
Est-ce que vous voulez développer les exemples sur les différents pays où on explique
Donnez-nous juste les différents. On vient de l'évoquer, mais puisse.
Continuez,
il nous reste 9 minutes.
Donc, je préfère.
je vous en prie.
Allez-y. Je préfère partir sur le. Comment dire.
Face au micro, s'il vous plaît.
Je préfère partir sur le raisonnement d'Étienne Chouard. Qui nous dit que nous sommes dans une prison, tous.
Alors, on parle d'Étienne Chouard. Bon, il est connu beaucoup par certains, mais d'autres ne le connaissent pas. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot qui il est?
Alors, Étienne Chouard, c'est un professeur d'économie politique.
Engagé.
Très engagé. Très ça engagé. Fait 20 ans, depuis 2005, ça fait 20 ans qu'Étienne se bat pour la souveraineté du peuple. Pour le peuple. Il a notamment initié, non pas créé, mais initié le mouvement constituant populaire auquel je me suis inscrite en 2021.
Étienne Chouard, il est suisse ou français?
Non, il est français.
Il est français. Je pensais qu'il était suisse.
Non, il est bien français.
Non,
il est même marseillais, alors là.
il est français, donc il exprime très bien que la nécessité, justement, puisqu'on est tous enfermés. Hein, moi, je dis la Constitution, c'est une boîte. Lui, il dit que c'est une prison. Et le problème, c'est que la majorité des citoyens pensent que changer de parti, de leader ou de tête d'affiche, ça changera les choses. Alors peut-être un minimum sur la forme selon la personnalité de l'individu, mais sur le fond, pas du tout. Pour la bonne et simple raison que quelle que soit la couleur du personnage du parti, ils doivent tous rentrer dans la même boîte qu'est la Constitution. Donc, pour arriver à quelque chose, il faut arrêter de se battre pour pousser la porte de cette prison qui n'est pas fermée à clé. C'est pas un camp ou un autre qui peut y arriver. Il faut qu'on soit tous ensemble. Il faut qu'on soit tous ensemble, absolument. Il faut l'union pour arriver à faire changer les choses.
Convergence des forces, voilà. Ça, c'est important de le rappeler. Édouard vient à plusieurs reprises dans l'année et on évoque souvent cette solidarité qui est quand même a priori porteuse d'espoir, hein, donc il faut le garder. Je parle d'Edouard parce qu'il représente les Gilets jaunes aujourd'hui, mais c'est cet esprit-là qui règne. Mais c'est important de le développer parce que on peut changer les choses. On peut peut-être pas révolutionner le pays, mais on peut changer les choses. Béatrice,
je tiens à préciser que le mouvement, il est toujours à partisan.
Oui.
Hein, avec des horizons différents pour chacun. Mais comme le répète souvent Béa, il faut qu'on soit ensemble, malgré toutes ces disparités.
C'est important de le rappeler.
Alors,
Béatrice.
Je voulais faire un petit point quand même pour informer les auditeurs.
Et auditrices.
auditeurs et auditrices, pardon.
Je vous en prie.
Je fonctionne encore à l'ancienne, à l'ancienne manière. Je voulais parler de l'état d'avancement du RIC actuellement. Donc, il faut savoir que Espoir RIC a représenté 2 demandes actuellement. On en est quand même à la 4e demande de révision constitutionnelle en présentant un projet de loi. Il y en a eu 3 précédemment. Chaque fois, les constitutionnalistes s'adaptent aux objections de la commission des lois. Ils réécrivent de façon à aplanir au maximum les objections qui pourraient être présentées. Donc actuellement, Espoir RIC présente une demande de référendum obligatoire d'abord, en supprimant un alinéa de l'article 89 que le gouvernement utilise injustement. La mesure toutefois, normalement, ça ne concerne qu'un cadre exceptionnel. Or, ils s'en servent à toutes les sauces, si je peux me permettre. Et donc, il y a cette proposition de référendum obligatoire et il y a la proposition du RIC constituant. Il y en a une des deux qui devait être examinée en avril, mais comme là, il y a les congés parlementaires pour 15 jours, donc ça a été repoussé au mois de mai et je ne manquerai pas de vous tenir au courant dès que j'aurai cette information.
Avec grand plaisir. Christian, oui. Il nous reste 5 minutes derrière.
5 minutes. Juste une petite objection sur le référendum. On sait que le pouvoir des médias, des réseaux sociaux sont très importants pour influencer les individus comme nous, hein, les simples citoyens. Un des dangers qui pourrait se faire par rapport à ça, c'est que ils sont capables de nous manipuler. Donc quand il y a un référendum, on est capable aussi d'être manipulé pour voter dans un sens par tous ces médias qui ont une puissance phénoménale. Alors comment on va pouvoir contrecarrer dans un référendum cette puissance qui est quand même qui est là et qui agit et qui nous font bouger?
Alors moi, ce que je propose aux auditrices et auditeurs, c'est d'aller s'informer sur les sites comme Espoir RIC, Culture RIC, il y a Décidémos, les gentilvirus, oui. La dynamique constituante populaire.
N'hésitez pas à vous y rendre pour davantage d'éclairage.
Voilà, ils auront des informations précises. Ces informations, elles sont réelles. Elles peuvent pas être contrecarrées.
C'est pas des fake news, voilà.
Voilà, ce sont pas des fake news, ce sont des faits. Ce sont des gens qui se battent pour l'intérêt de la population et pas pour leur chapelle. Ils ont pas leur seule chapelle, c'est le peuple, la souveraineté du peuple. Voilà, donc il nous reste un peu de temps pour aborder
quelques minutes, allez-y.
La dynamique
3 minutes, Béatrice.
La dynamique citoyenne, c'est-à-dire la démocratie directe avec le RIC local qu'on a pu aborder samedi en journée en assemblée citoyenne avec Étienne Chouard, avec un avocat qui est aussi très connu.
Et on parlera de la manifestation d'Olioul aussi, juste
mais
derrière.
Mais c'est celle-ci.
Exact, c'est lié.
C'est
ouais.
Celle-ci.
C'est le RIC local.
Je
ne
sais pas si Edouard, il veut...
Oui,
on
n'a
pas beaucoup entendu Edouard. Ouais.
Oui, mais...
on va le laisser parler un petit peu, tiens.
D'ailleurs, c'est déjà de remercier et féliciter les collègues qui ont à la fois organisé et se sont investis pour cette manifestation. Mais le scoop qu'on m'a énoncé ce matin, c'est qu'il y a un maire, le maire de Ménil-la-Horgne, près de Commercy, en Lorraine, dans le Grand Est, qui est intervenu pour parler de la démocratie directe qui a été installée dans sa commune.
Et oui, ça existe, auditeur, auditrice.
Et puis, vas-y.
Il ne faut pas oublier de dire que ce maire a participé à l'Assemblée des Assemblées de Commercy, première assemblée nationale de Gilets jaunes, qui a été secrète, et que donc, en tant que Gilet jaune, il a décidé de se présenter. Et comme
okay.
Le dit Edouard...
Intéressant.
Il a installé la démocratie directe dans sa commune. Je te laisse en parler.
Et puis, bon, c'est bien l'Assemblée citoyenne qui décide. Il y a bien un maire, il y a bien un conseil syndical, mais c'est la base qui décide avant tout.
Et ça, c'est important.
Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que, quelque part, le député de la circonscription est venu quand même les voir. Alors, demanda, mais vous fonctionnez comme ça ? Eh oui, on fonctionne comme ça. Bon. Le préfet aussi est intervenu leur demandant « Mais vous fonctionnez comme ça ?» Eh bien oui, on fonctionne comme ça. Donc vous voyez, c'est un commencement. Aujourd'hui, on profite de bien l'énoncer ici à Radio Galère. La démocratie directe, elle existe dans notre pays.
Et ça, c'est important parce qu'on pense, on pensait que c'était complètement marginalisé, que c'était illusoire. Elle existe dans notre pays. Et Edouard vient de nous le prouver avec Béatrice.
Et justement, le maire nous expliquait que cette assemblée citoyenne qui décide, et les gens sont tous d'accord, la population du village, ils sont tous d'accord, ils sont enchantés et heureux. C'est validé automatiquement par le conseil municipal par procès-verbal, ce qui devient donc, d'une certaine façon, une application du RIC local qui est complètement validée juridiquement, même si elle n'a pas d'existence juridique même. Et donc, il en découle une acceptation administrative des structures intercommunales et préfectorales, comme le disait Edouard. Oui. C'est la démocratie directe par le bas, en remontant. Et ça part de la population et ça remonte vers les institutions.
Et ça a du sens, évidemment.
Évidemment, c'est monumental ce qui se passe. Et actuellement, les villages des alentours, ils ont compris comment ça fonctionnait.
Ils veulent s'en inspirer, vous voulez dire ?
Ils commencent à réclamer la même chose chez eux. Donc, ça nous donne beaucoup d'espoir.
Une véritable contagion. Voilà ce qu'il faut.
Et l'espoir, il en faut. L'émission touche à sa fin. Je vous laisse les 30 dernières secondes pour conclure. En tout cas, merci encore une fois à Béatrice d'être venue si loin pour nous et nous avoir très bien éclairé.
Et nous expliquer ce qu'est le RIC. Oui, voilà, parce
avec plaisir.
De nous avoir bien décrypté. On sent qu'il y a beaucoup d'engagement, de cœur, d'implication. Je sais que vous avez bossé des jours et des jours pour préparer cette émission et des connaissances. Merci à Edouard qui est toujours évidemment un support
qui
précieux.
Qui vous a épaulé, bien sûr.
Tout en principe, le RIC, c'est un peu, ça semble pour beaucoup un sujet rébarbatif.
C'est pour ça qu'il faut l'expliquer.
Ça dépend comment on le présente. Et la nécessité, justement, pour que ça intéresse les gens, c'est qu'ils comprennent pourquoi le reste ne fonctionne pas, pourquoi il faut qu'ils s'investissent. Donc, j'appelle tous les auditeurs et auditrices, ou l'inverse, à s'investir, au moins à s'informer dans ce sens. Vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale pour signer la pétition du référendum obligatoire et la pétition du référendum d'initiative constituante. Plus on sera nombreux, plus ça aura de poids auprès des députés de l'Assemblée nationale et notamment de la Commission des lois.
C'est une sorte de référendum, finalement.
Il y a...
Eh bien oui.
Mais il faut que les gens nous aident à sortir de cette prison, à sortir de cette boîte. Absolument. On peut pas. On fait tout pour y arriver, mais on peut pas y arriver tout seul. On se bat pour la souveraineté, pour la population, pour le bien commun, les services publics.
Merci beaucoup, Béatrice. Merci beaucoup, Edouard.
Merci à vous.
Au plaisir de vous revoir. Et en tout cas, merci d'avoir incarné cet élan d'espoir. Et on le rappelle, c'est possible, c'est envisageable. Il faut faire preuve de solidarité. Et vous voyez, il n'y a pas que le cœur qui parle. Il y a aussi de la connaissance, de la clairvoyance, de la réflexion. Voilà. Et ça, c'est quand même très précieux. Merci Béatrice,
merci
Edouard.
Merci à vous de nous avoir reçus et sachez que Espoir RIC est informé de cette émission et ils attendent d'en connaître le contenu et le résultat.
Avec grand plaisir.
On espère qu'on ne va pas être sanctionné.
on leur enverra même le podcast de l'émission.
Pas par eux en tout cas.
On n'en doute pas.
Merci beaucoup.
Merci tout de suite. La programmation établie de Radio Galère. Merci donc au RIC, Béatrice et Edouard. Merci à Christian, à Richard qui nous a quittés, qui n'était pas pour la dernière demi-heure exceptionnellement. On se retrouve la semaine prochaine de 8 à 10. On va parler aussi, la semaine prochaine, on parlera de Forum de l'Emploi. Voilà. Et ça, c'est très important. Merci, au plaisir.
Merci beaucoup.
Au revoir.